soir, passez un étrange été avec Louis Benedi, les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio.
Daniel Costel est toujours en notre compagnie et nous accueillons Pierre Lagrange. Bonsoir Pierre Lagrange.
Bonsoir. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir.
Alors, merci de venir nous rejoindre, Pierre Lagrange. On va passer la deuxième partie de l'émission avec vous pour discuter d'OVNI avec votre nouvel ouvrage qui s'intitule « Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez ». Alors, je ne sais pas si vous avez entendu une partie de l'émission juste avant, Pierre Lagrange.
La fin.
Juste la fin. Donc, vous êtes tous les deux, Daniel Costel et vous-même, aux éditions Presse du Châtelet. Vous êtes donc, vous êtes collègues, en quelque sorte, si je puis me permettre. Alors, Pierre Lagrange, je vous ai demandé d'intervenir dans cette émission un petit peu plus tôt, parce que Daniel Costel, lorsque nous avons préparé ensemble cette émission au téléphone, m'avait dit, bah tiens, ça tombe bien que vous parliez des ovnis, parce que moi j'ai quelque chose à dire concernant ce dossier d'OVNI, puisque vous êtes quand même un petit peu spécialiste de l'aéronautique, et en même temps de l'histoire des inventions, donc c'est un domaine que vous connaissez bien, et vous m'avez révélé quelque chose de tout à fait étonnant, Daniel Costel.
Vous savez, effectivement, entendu beaucoup parler du livre de votre invité,
Pierre Lagrange,
qui est Pierre Lagrange, qui est paraît-il tout à fait étonnant. Et en fait, c'est pas du tout ni une, c'est peut-être une information. Je ne sais pas si vous en parlez dans le livre. Malheureusement, je l'ai pas encore lu. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Voilà. Donc, je voulais vous parler de cette histoire de la crêpe volante,
le flapjack,
le XF5U1, le chance-voûte V173, j'ai l'air très pédant comme ça.
Ah oui, alors là, ça nous impressionne. Là,
je vois ce que c'est, je connais
l'avion. C'est un avion à aile circulaire qui a volé à Chaïnalex le 23 novembre 1900, enfin le premier vol c'est 42, mais il a surtout été envoyé à Chaïnalex, qui est une base ultra secrète aux 200 km de Los Angeles, en Californie, à partir de 47. Uh-huh. Et il semble que il y a une relation de l'atterrissage de nuit de cet avion avec des ailes circulaires et avec des feux de position qui, par définition, étaient circulaires, vous voyez. Et les gens qui ont vu ça de la route qui séparait la base de l'extérieur, si vous voulez, on parlait de soucoupe volante. Et je crois que le Pentagone a beaucoup insisté pour suivre cette histoire, pour aller dans ce sens-là, de manière à camoufler des essais secrets.
Des essais secrets de la crêpe volante ?
Oui.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en fait, en 47, quand l'histoire des soucoupes volantes démarre, donc le 25 juin 47, le numéro de mai 47 de Mechanics Illustrated contenait un gros dossier sur la crêpe volante. Donc un mois avant. Et l'article se finissait sur une remarque très curieuse. Il disait, si jamais vous voyez passer un engin qui vole à une vitesse folle et qui a l'aspect d'une soucoupe, ne vous étonnez pas, ça sera la crêpe volante. Et la coïncidence est curieuse, mais je pense que ça fait partie de toutes ces spéculations à l'époque sur les armes secrètes, et je suis pas sûr que cet appareil permet d'expliquer toutes les observations qu'il y a eu sur le territoire américain pendant l'été 47, loin de là. On a aussi parlé des ailes volantes, par exemple, des ailes volantes de Northrop, qu'on a dit, c'est peut-être des confusions avec les ailes volantes.
Et puis le projet allemand aussi.
Oui, alors les ailes volantes, les frères Hampton et Lippisch. Ça aussi, on supposait que les Russes avaient récupéré les savants allemands. Il y a eu toute une enquête qui a été faite d'ailleurs à la suite de l'histoire des soucoupes volantes. La base Wright Field a lancé toute une enquête pour retrouver les frères Horton et les interroger. Donc il y a vraiment, en 47, l'hypothèse des armes secrètes est une hypothèse qui est très présente, mais de même qu'elle est restée très présente pendant toute l'histoire. Quand on parle d'OVNI en Belgique en 1989-90, on va soupçonner le F-117 américain.
Ouais.
Donc c'est une hypothèse qui revient tout le temps. Moi, ce dont je me rends compte pour avoir étudié de façon un peu détaillée les dossiers, notamment ceux de 47, c'est que on peut pas expliquer toutes les observations, c'est clair. Peut-être que des observations locales dans la région où sont testées les crêpes volantes ont donné lieu à des affaires où des gens ne savaient pas que cet engin existait. Mais dans d'autres situations, notamment l'observation d'Arnold ou autre, où on décrit neuf engins à la fois, c'est clair que c'est autre chose.
Mmh. Daniel Costel, lorsqu'on a discuté ensemble au téléphone de ce que vous alliez nous dire, on a évoqué ensemble une hypothèse de réflexion qui me semble intéressante et que j'ai envie de soumettre à Pierre Lagrange. Moi, je serais responsable de la communication de l'US Army à cette époque-là. Voulant protéger évidemment la confidentialité, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, guerre froide évidemment, les deux blocs s'affrontent. Finalement, cette hypothèse de soucoupe volante m'arrangerait plutôt, comme ça, ça camouflerait, le véritable objet des recherches.
C'est une hypothèse, mais c'est plutôt à votre invité d'y répondre. Parce
oui,
que
tout à fait.
Ça m'intéresse beaucoup d'avoir son point de vue.
Disons que. C'est vrai qu'il y avait certainement des projets secrets à l'époque, mais bon, pour ce qui est de la crêpe volante, le secret avait été éventé, puisqu'il y avait ce grand dossier dans Mechanics Illustrated. Donc, c'est en couverture, en plus du journal, donc tout le monde entend parler de cette histoire-là et sait quel est cet engin.
Ouais.
Les ailes volantes, elles sont pas secrètes, on sait qu'elles sont testées. Donc, ça concernait d'autres prototypes plus tardifs. Mm-hmm. Mais pour les Américains, les militaires, étant donné le cloisonnement au sein de l'appareil militaire, Les enquêteurs militaires, ceux qui enquêtent sur les soucoupes, sont les premiers à soupçonner que c'est une autre branche de l'armée américaine qui teste quelque chose.
Ouais.
Et comme ils savent qu'il y a eu le projet Manhattan et qu'ils n'en ont pas entendu parler, donc le projet Manhattan a été un secret militaire au sein de l'appareil militaire d'abord. Mmh. Donc il y a une grosse partie de l'armée qui ne savait pas qu'il y avait un projet pour construire la bombe atomique.
Ouais.
Donc ils sont tout à fait sensibilisés à l'idée que c'est peut-être une arme secrète. Mais par contre, d'un autre côté, l'idée de devoir dire au public « il y a des choses qui volent, on ne sait pas ce que c'est », ça les angoisse énormément, parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent que l'espace aérien est violé sans qu'ils puissent rien faire.
Mmh.
Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Eh bien, écoutez...
Merci beaucoup,
merci
Daniel Costel.
Merci beaucoup pour votre soirée.
Merci d'avoir attiré l'attention sur la crêpe volante, qui est effectivement, beaucoup de gens l'ont oubliée.
Écoutez, le Flying Pancake.
Flying Pancake, c'est pas mal comme nom, tiens.
Flying bon. Flapjack aussi, on l'appelait.
Le Flying comment, Pierre Lagrange?
Flapjack. La crêpe volante, en fait.
Ah d'accord, très bien. Ok.
Ou le gâteau volant, oui.
Très bien. Merci beaucoup, Daniel Costel.
Merci
et à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Pierre Lagrange, nous continuons ensemble. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, aux éditions presse du Châtelet. C'est vrai que cette introduction est tombée fort à propos.
Oui.
Parler des crêpes volantes. Juste une parenthèse, ça ressemblait à quoi
La crêpe volante, c'était un engin qui était vraiment circulaire, qui était pas totalement circulaire. Il était circulaire à l'avant et puis il avait un peu triangulaire à l'arrière. D'ailleurs, un peu comme les descriptions des premières soucoupes de Kenneth Arnold, à part que les soucoupes d'Arnold allaient, c'était le côté circulaire qui était en avant, alors que dans la crêpe volante, c'était l'inverse. Donc il aurait fallu imaginer qu'elles aillent à l'envers, en plus, en fait, à reculons.
Ouais.
Mais c'était un peu comme ça, c'était très plat, et il y avait deux hélices, il y avait un habitacle à l'avant, donc qui était moulé dans la structure circulaire de l'appareil.
Ouais.
C'était assez curieux comme engin, hein. Et la Navy, donc c'était principalement la Navy qui testait ça.
Oui, mais ça servait à quoi cet avion? Décollait plus court, atterrissait plus court?
Je pense que l'idée, oui, il y avait déjà
ça. Quel est l'intérêt technologique?
L'intérêt, c'était notamment de décoller sur des pistes beaucoup plus courtes, et puis je pense d'offrir une surface très réduite pour les éco-radars.
Mm-hmm.
Dès l'époque... il y a des recherches très poussées sur la furtivité et les ailes volantes, le B2, c'est la fin d'un long projet qui commence dans les années 30, chez Northrop notamment.
C'est quoi le B2?
Le B2, c'est, vous savez, l'avion invisible américain géant.
Oui.
Il y a le F-117 qui est le petit bombardier furtif.
Oui.
Et le B2 qui est un bombardier géant, qui coûte quasiment son poids en or et qui est donc invisible au radar. Et qui est vraiment une aile, juste une aile, il n'y a pas de dérive, il n'y a rien.
Oui, on a vu des photos, effectivement.
Voilà.
Oui, oui.
Or,
très beau, d'ailleurs. Ouais.
Il est très beau, on dirait l'avion de Batman. En
gros. Oui, il est fabuleux. Oui.
Et c'est dommage que ce soit un engin de mort, mais bon.
Oui, pareil.
On a toujours beaucoup d'imagination pour tuer les autres.
Oui, c'est vrai.
Mais quand on regarde en 47, Northrop a fabriqué le XB et le YB 47 et 49, qui sont... des engins qui sont exactement des ailes volantes comme ça, avec de toutes petites dérives à l'arrière, et dont le XB est à propeller, à hélice, et le YB à réaction.
Mm-hmm.
Alors c'est des engins qui seront abandonnés parce qu'à l'époque on n'a pas la technologie, notamment informatique, qui permet de pallier au problème de stabilité.
Oui,
ce qu'on sait faire avec le B2 et avec le F-117. Le F-117, si on n'avait pas toute la technologie électronique et informatique, il ne pourrait pas voler, c'est un fer à repasser.
Oui, oui, pour rattraper à chaque fois les déficiences.
Voilà, parce que sinon, il se casse la figure, c'est incapable. Il n'a absolument pas ce qu'est la configuration d'un avion normal. Et donc, à l'époque, comme on n'avait pas ça, les ailes volantes avaient une fâcheuse tendance à s'écraser. D'ailleurs, le nom de la base d'Edwards, c'est d'un pilote d'aile volante qui s'est écrasé.
D'accord,
et la base de Muroc est devenue la base d'Edwards en Californie.
Uh-huh.
Et voilà, donc on testait ces appareils. Donc on était vraiment dans un climat à l'époque d'armes, de tests d'armes nouvelles. Et c'était des essais pour avoir les appareils qui offrent la surface la plus mince aux détections radar. Parce qu'une aile comme ça n'a pas toutes les aspérités qu'a un avion normal.
Oui. Juste encore, avant de refermer la parenthèse, ce bombardier géant dont vous parliez, le B2, hein, c'est ça?
Le B2.
Il a quelle envergure? Enfin, si vous avez les dimensions à la louche, à peu près, voir ce que...
Franchement, je me souviens pas, mais c'est un truc qui doit faire, je sais pas, dans les 40 mètres.
Ah oui, belle bête,
quand même. C'est un énorme appareil. Hein.
Ah,
le F-117, on l'a vu au Bourget, il est quand même assez petit. Il est déjà très impressionnant, mais le B2, c'est un bombardier géant. Il est très très grand. C'est le genre d'avion qui devait succéder au B-52.
D'accord.
À part qu'à mon avis, il n'a pas du tout la même contenance qu'un B-52, ce qui fait que ces vieux appareils restent toujours en action.
Oui, d'accord.
Puis le B2 coûte vraiment très très cher et chaque fois qu'il traverse des zones d'orage ou autres, sa surface doit être refaite. En fait, il est très très fragile en fait.
Alors, Pierre Lagrange, parlons de votre livre. On va aborder évidemment différents sujets ce soir. Donc, la théorie du complot, bien entendu. On parlera également de ce que vous appelez la réécriture de l'histoire ufologique, et puis de l'hypothèse extraterrestre. Qu'est-ce qu'on doit en faire finalement dans tout ça? Est-ce qu'elle est toujours valable? Est-ce qu'elle est toujours finalement étudiable? Je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'emploie quand même. Et que doit-on en penser? Alors d'abord, votre livre, pourquoi ce livre? Ce que OVNI, deux points, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Et vous renvoyez dos à dos deux communautés, les ufologues d'un côté, et ce qu'on appelle, entre guillemets, les débunkers dans le jargon parapsychologique, voilà, les rationalistes, les sceptiques, ceux qui ne veulent pas y croire, etc. Vous les renvoyez dos à dos.
Oui, parce que, bon, déjà, dès le départ de l'histoire des soucoupes volantes en 1947, dès qu'on commence à discuter de soucoupes volantes, il y a, en gros, deux types de réponses qui sont apportées. La première, c'est la réponse scientifique, donc où sont les preuves de l'existence des ovnis, etc., etc. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on nous cache quelque chose? Et à commencer par les militaires qui se disent, est-ce que d'autres militaires ailleurs nous cachent quelque chose? Donc, on est vraiment dans... Il y a deux débats qui sont parallèles et qui souvent se croisent d'ailleurs, qui est celui de la preuve scientifique et celui d'un complot pour étouffer la vérité, en gros, une espèce d'organisation qui nous cacherait ce qu'il en est. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Ces deux débats sont toujours restés en place. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, le débat sur l'idée de secret caché est beaucoup plus... Il a pris énormément d'importance, notamment
une ampleur phénoménale. Ouais.
Voilà, depuis les années 90 avec la série X-Files et puis toutes les révélations sur l'affaire de Roswell. Donc, on est vraiment dans... on peut pas ignorer ces deux aspects-là. Et donc, je me disais qu'il était important de consacrer un ouvrage à essayer de discuter... j'espère de façon pertinente, de toutes ces théories qu'on a émises pour expliquer qu'on nous cachait la vérité. Et surtout d'essayer de trouver l'origine, parce qu'il y a pendant longtemps, bon, il y a eu toutes ces discussions sur le complot, mais c'est vrai que il y a un ou deux ans, on a vu toute une série d'ouvrages apparaître par des spécialistes de sciences politiques comme Pierre-André Taguieff ou des sociologues qui se sont intéressés brusquement à un sujet qui ne les intéressait pas avant, qui est justement cette théorie du complot. Et donc on a suggéré, en fait, notamment Pierre-André Taguieff, qui avait toute une filiation entre ces théories ufologiques, des amateurs d'OVNI, c'est leur passion pour les complots, et tout un tas d'autres milieux qui entretiennent des théories du complot. Je pense notamment à des milieux liés à l'extrême droite ou autre, avec les théories sur les protocoles des sages de Sion, le complot juif, enfin toutes ces théories un peu vieillottes, mais qui malheureusement ont toujours des adeptes forcenés. Et il se dit, on trouve un peu la même logique. Alors, il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont proches des milices d'extrême droite, qui sont une espèce de groupuscules de fanatiques d'extrême droite, qui se sont, dans les années 80, intéressés aux soucoupes volantes. Je pense notamment à William Cooper, qui est un type qui a été d'ailleurs abattu par le FBI parce qu'il faisait de la résistance active. Et un autre qui a été connu des milieux ufologiques qui s'appelle John Lear, qui est d'ailleurs un pilote émérite par ailleurs, mais qui est un fanatique d'extrême droite. Et ces gens-là émargeaient à des groupuscules pas très recommandables. Mais la plupart des gens qui s'intéressent aux ovnis ne sont pas des gens d'extrême droite. ce sont des gens
oui,
qui...
il faut bien préciser les choses, parce voilà. que là, on glisse sur des pentes dangereuses.
Oui,
on
oui,
peut pas faire d'amalgame.
Il y a des amalgames qui sont un peu risqués. Ouais. Et la plupart des gens qui s'intéressent aux ovnis ne sont pas, n'appartiennent pas à ce genre de
bien
mouvance.
Bien entendu, oui.
Et eux, ils s'intéressent aux ovnis et ils soupçonnent qu'on leur cache des choses pour des raisons qui sont tout à fait différentes, qui sont liées à une certaine vision de la connaissance. Et en fait, c'est pas eux qui ont mis en scène ces théories, c'est justement, comme j'essaie de le montrer dans le livre, les rationalistes. Les gens qui ne croient pas aux soucoupes volantes, paradoxalement, sont des gens qui croient tout autant au complot que les ufologues. Mais pour d'autres raisons. D'abord parce qu'ils ont une certaine vision de l'histoire, bon, on connaît tous l'histoire, selon laquelle Galilée aurait été empêché de parler par l'Église.
Oui.
C'est un vieux thème.
Oui.
Si on discute vraiment avec des historiens qui ont travaillé sur Galilée, on se rend compte que cette version est fausse. C'est pas du tout ça. D'abord, Galilée était un ami du pape, donc ça on oublie quand même souvent de le rappeler. Et c'est, il y a toute une série de querelles, et comme la science telle qu'on la connaît n'existe pas à l'époque, puisque Galilée est un des premiers scientifiques, on peut pas considérer qu'il y a une querelle entre la science et l'Église. Il y a une querelle au sein d'hommes d'Église et de personnes qui interprètent les textes sacrés pour savoir jusqu'où on peut aller et comment séparer les domaines. Et le problème de Galilée, c'est en gros d'éviter à l'Église d'avoir à traiter des questions qui pourraient la mettre en porte-à-faux, et notamment des questions liées à l'astronomie ou autre. Et c'est ça la querelle qui se passe à l'époque. Et les rationalistes ont eu tendance à réécrire l'histoire en disant, regardez, on a essayé d'étouffer la vérité, l'Église. Alors, à l'époque de Galilée et après, jusqu'au 19e siècle, on a essayé comme ça de maintenir une chape de plomb sur la vérité scientifique. C'est intéressant comme théorie, mais ça ne tient pas quand on examine ça sérieusement. Et il y a suffisamment de travaux d'historiens sur Galilée pour s'en rendre compte. Par ailleurs...
J'ai appris des choses, voyez, en vous écoutant ce soir.
Bon, je vous invite vraiment à lire les ouvrages sur Galilée, parce qu'il y a des recherches passionnantes qui montrent que les pistes sont à chercher ailleurs. Et par contre, disons, également les rationalistes, à côté de cette façon d'écrire l'histoire avec cette querelle entre l'Église et la science, ont tendance à imaginer qu'à notre époque, on le voit par exemple dans le livre de Georges Charpak et Henri Brock qui est paru il y a quelques années, qui a eu tant de succès, Devenez sorcier, devenez savant, cet ouvrage nous expliquait qu'en gros, les médias et les pouvoirs publics préfèrent que les gens croient aux soucoupes volantes, à la parapsychologie, à l'astrologie, plutôt que d'en faire des citoyens responsables. Donc en gros, il y aurait des espèces de pouvoirs qui, dans la société, favoriseraient la croyance des gens dans tous ces trucs-là.
Donc eux aussi ont ce mécanisme du complot.
Voilà, ils imaginent que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, en gros, conspirent contre la vérité. C'est toujours ce principe qui consiste à dire que celui qui n'est pas d'accord avec moi est quelqu'un de forcément malhonnête. Et bon, ça c'est une idée... qui est forte, mais qui est fausse. Je veux dire, si on n'accepte pas, si les rationalistes n'acceptent pas que les gens qui s'intéressent aux ovnis sont tout à fait sincères dans leur démarche, et inversement, que les gens qui s'intéressent aux ovnis n'acceptent pas que les rationalistes sont aussi, malheureusement, sincères dans leur démarche, quelle que soit leur croyance par ailleurs, on peut pas s'en sortir, et on soupçonne toujours l'autre de conspirer. Et là, on a vraiment une dispute entre, d'un côté, certains ufologues qui disent, ben, on nous cache la vérité sur les soucoupes volantes, c'est-à-dire les rationalistes, la science officielle, comme on dit, le politique, l'armée. Et de l'autre côté, les milieux rationalistes et sceptiques qui disent, ben, tous ces amateurs de soucoupes volantes, de parapsychologie, d'astrologie, sont des conspirateurs qui veulent abattre la connaissance scientifique. Ben, dans ces cas-là, on peut pas s'en sortir.
Donc, comment s'en sortir, justement? C'est en sortant de ce schéma et en essayant de penser différemment.
Oui, mais c'est déjà en essayant d'explorer, je pense, les racines de ces théories du
complot. Ce que vous
complot,
faites à travers votre livre,
Voilà, et d'essayer de sortir d'une espèce de schéma un peu dichotomique, un peu manichéen, où on a les bons d'un côté, les brutes de l'autre, et de se dire d'où ça vient, et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à penser de cette façon-là. Alors, par ailleurs, il faut pas non plus être naïf. Je veux dire, les complots, ça existe. Au cours de l'histoire, on en a une pléthore. Mais il y a peut-être des nuances à faire entre des complots qui vont réunir quelques personnes ou quelques dizaines de personnes et l'idée de complot qui durerait pendant des décennies et qui arriverait à contrôler quasiment toute la société. Parce que dans l'histoire de la théorie du complot sur les soucoupes volantes, on imagine quand même que des pouvoirs, des administrations complètes sont noyautées par l'idée de secret. Moi, la question que je me pose toujours, c'est quelle est la durée d'un complot? On sait très bien que l'homme étant ce qu'il est, quand vous racontez un secret à quelqu'un, vous êtes à peu près sûr qu'il va le raconter à quelqu'un d'autre. Donc c'est très difficile de demander aux gens de ne pas dire, de ne pas révéler quelque chose.
Oui, l'archétype du complot qui monte en puissance et qui continue à vivre tranquillement sa vie encore de nos jours, c'est le dossier Roswell, par exemple.
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que là, on a... Alors c'est bon, en plus c'est une affaire qui est... malgré son ancienneté qui est assez récente,
oui.
puisque l'affaire se déroule en 1947, donc Brazel, un paysan, trouve des débris bizarres dans son champ. Il les amène à la ville de Roswell, il va voir le shérif lui dit va voir la base militaire, et c'est là que l'affaire va démarrer, puisque ce sont les militaires de la base de Roswell qui envoient une dépêche à la presse en disant on a découvert, on a ramené
une soucoupe volante.
Voilà, les débris d'une soucoupe volante. Et là, ça va déclencher l'intérêt de la presse, bien évidemment. Et quelques heures après, la base de Fort Worth, où ont été transportés les fameux débris, envoie une nouvelle dépêche en disant « Ben non, on s'est trompé, c'était les débris d'un ballon sonde. » Et là, l'affaire tombe dans l'oubli. On n'en parle plus. Et elle ressort en 1980, puisqu'en 1980, Charles Berlitz, qui est connu par ailleurs pour ses ouvrages sur le triangle des Bermudes, et sur l'Atlantide, et sur d'autres choses mystérieuses, mais surtout à cause de ses bouquins sur le triangle des Bermudes, écrit et publie un livre en 1980 qui s'appelle « Le mystère de Roswell » en français, « The Roswell Incident » en anglais, et dans lequel il fait ressortir l'histoire. Parce que deux ans avant, un ufologue américain qui s'appelle Stanton Friedman a croisé un peu par hasard la route de Jesse Marcel, un officier des renseignements de la base de Roswell.
Qui avait ramassé des débris.
Qui avait ramassé les fameux débris et qui vient lui dire, à l'époque, l'armée a caché la vérité, ces débris, c'était pas ceux d'un ballon sonde, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et donc l'affaire va repartir de là. Il va être...
Voilà la racine de l'affaire, donc.
Oui.
C'est vraiment ça, vraiment.
Une histoire qui se passe en 47 et qui est une histoire parmi tant d'autres qu'on oublie.
Ouais.
Et qui ressort en 1980 et qui surtout va ressortir au début des années 90 avec la série X-Files qui va la diffuser un peu partout sur la planète et bien sûr la polémique qui suit avec les rapports de l'US Air Force, l'enquête du Pentagone et toute la réaction des ufologues qui va suivre.
C'est allé très très loin et ça va très loin d'ailleurs quand même. Ça a pris des ramifications et une ampleur inimaginable.
Oui, je pense que si à l'époque, en 47, on avait dit aux gens un jour l'affaire de Roswell fera la une des journaux, ils auraient rigolé. Parce que on pouvait pas s'imaginer qu'un truc qui avait occupé 3 heures de l'actualité américaine en 1947 allait devenir l'affaire qui allait vraiment permettre de réinterpréter tout le dossier des soucoupes volantes. C'est que c'est tout le monde a entendu parler de Roswell. Si je vous parle de Kenneth Arnold, la plupart des auditeurs ne savent pas qui c'est.
Oui,
alors que c'est Kenneth Arnold, le vrai début de l'histoire des soucoupes volantes. C'est lui qui a déclenché l'affaire et c'est lui qui est à l'origine de l'expression soucoupe volante.
En plus.
Donc, je veux dire, toute
l'affaire... Rappelez-nous juste Kenneth Arnold, qui était-il et qu'est-ce qu'il a vu, juste en quelques mots pour...
Kenneth Arnold, c'est un jeune homme d'affaires qui a 32 ans, et qui est pilote privé et qui, le 24 juin 1947, observe au-dessus de Mont Rainier dans l'état de Washington 9 engins bizarres qui vont, selon ses estimations, à 2 fois la vitesse du son. Ils sont plats, arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière, un peu comme la crêpe volante dont on parlait tout à l'heure, mais un peu, donc irait à reculons. Et il ne sait pas ce que c'est, il en parle à des amis pilotes qui ne savent pas ce que c'est non plus. Et en désespoir de cause, il en parle à des journalistes une petite ville de l'Oregon où il se pose, Pendleton, qui vont rédiger une dépêche, et c'est là, cette dépêche-là, qui va déclencher une controverse nationale et internationale sur un truc que les journalistes se mettent à appeler soucoupe volante. Parce que le journaliste fait une erreur et confond le mouvement, Kenneth Arnold lui dit, c'était comme des soucoupes qui auraient ricoché sur l'eau, et le journaliste confond le mouvement et la forme. Il dit, c'était des objets qui ressemblaient à des soucoupes, d'où l'expression soucoupe volante.
Ouais.
Et c'est ça, le début de l'histoire des soucoupes volantes, et pas autre chose. Et c'est le 8 juillet 47 que l'histoire de Roswell arrive, donc 10 jours après.
Ouais.
Et le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, on confond les deux. Quand on fête effectivement le 60e anniversaire de l'affaire de Roswell, par définition, elle s'est passée en 47. Mais on oublie que c'est pas l'affaire de Roswell qui a déclenché l'histoire des soucoupes volantes. Et là, on est dans une époque où, depuis 1994, en gros, on réécrit systématiquement l'histoire.
Ouais.
C'est un peu comme si on inventait un nouveau début à la Seconde Guerre mondiale.
Sous prétexte que
le début habituel est pas très sexy. Donc, ça paraîtrait très curieux et même scandaleux pour les historiens. Or, toutes les télés, même les émissions les plus sérieuses, ne cessent de nous rabâcher que Roswell, c'est le début de ce qui a tout déclenché, quoi. Non, Kenneth Arnold qui a tout déclenché.
Ouais. Avouez quand même, enfin, je dis, c'est pour vous, c'est quand même fascinant de, en tant que sociologue, de travailler sur ce thème, c'est-à-dire décortiquer, en même temps historien, puisque vous allez aux racines de l'histoire, donc au mois de juin 47, aller retrouver toutes les ramifications pour les mettre en évidence comme dégager finalement les racines d'un petit arbre, pouvoir exactement les dégager l'une après l'autre et bien comprendre toute la complexité de l'affaire. Ça veut dire exhumer toute une série de documentations et aller fouiller partout.
Oui, mais c'est le problème de... Il y a un paradoxe dans l'histoire des soucoupes volantes, c'est que c'est un sujet qui dit... Tout le monde a une opinion sur les ovnis. Et tout le monde a entendu parler de Roswell, de tas de choses comme ça. Et le problème, c'est que il y a vraiment un paradoxe entre cette espèce de fait que c'est un sujet partagé par tout le monde et le fait que si on veut vraiment se donner la peine d'essayer d'y comprendre quelque chose, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, oui. Comme n'importe quel autre sujet d'investigation historique ou scientifique.
Bien sûr.
Je veux dire, ça s'improvise pas. Et moi, il y a plus de 20 ans, quand je me suis intéressé à l'histoire de Kenneth Arnold, il a fallu que j'aille aux États-Unis, que je retrouve les acteurs, que j'exhume des documents. Ça m'a pris des années. Et ça m'a permis de voir en plus toutes les idées reçues qu'il y avait déjà sur l'histoire de Kenneth Arnold, puisqu'on colportait tout un tas d'histoires fausses à son sujet. Mm-hmm. On n'arrêtait pas de dire, par exemple, que quand il s'était posé avec son avion, les journalistes étaient déjà là en train de l'attendre. C'est faux. C'est lui qui est allé trouver les journalistes, des raisons tout à fait honorables d'ailleurs, mais l'histoire s'est pas passée comme on le racontait. Personne n'était allé voir le journaliste qui avait écrit la première dépêche de presse. Mm-hmm. Je suis allé le retrouver dans là où il coulait une paisible retraite, ouais, dans l'État de Washington. Mm-hmm. Donc les gens n'étaient pas revenus sur les lieux, n'avaient pas rencontré les acteurs ou leurs familles, etc. Donc il y avait vraiment une enquête à faire. Et c'est ça qui est intéressant dans ces sujets. Avoir une opinion sur les soucoupes volantes, en gros, je dirais que tout le monde peut se le permettre. Mais vraiment, se dire sur quoi on va fonder cette opinion, ça pose d'autres difficultés. Parce que finalement, c'est un sujet, comment dire, dont on peut s'emparer comme ça assez facilement. Il y a des livres qui sont accessibles et tout. Mais c'est si on veut en faire vraiment un sujet de débat et l'inclure dans des cadres de discussion scientifique, ça pose d'autres difficultés. Et c'est pour ça que depuis d'ailleurs si longtemps, il y a plein d'idées reçues pour et contre sur le sujet. Il y a tant d'engueulades autour des soucoupes volantes et peu de discussions un peu paisibles, on va dire.
Ouais. Alors, nous allons faire une première pause. Pierre Lagrange, il y a pas mal de SMS qui arrivent, notamment concernant l'émission de France 3, qui a été diffusée la semaine dernière, à laquelle vous avez participé d'ailleurs. On en dira un petit mot rapidement. Nous parlerons également de l'hypothèse extraterrestre, bien entendu, parce qu'on peut pas faire l'économie de au moins se poser la question dans cette émission. Étrangeté sur Sud Radio. Et puis, on parlera... on reviendra pour commencer sur votre livre et à travers l'exemple que vous avez pris vous-même d'ailleurs, l'évolution au CNES du GEPAN, CEPRA, etc. etc. On repeignera tout cela avec vous si vous le voulez bien, Pierre Lagrange. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour nous apporter vos questions, vos commentaires, vos réactions. Pierre Lagrange est à votre disposition pour y répondre, bien entendu. Et puis vous pouvez également, comme l'ont fait nos deux auditeurs, Rascal entre autres, qui est un auditeur fidèle, vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, votre texte et vous envoyez le tout au 71 200.
Étrange été, Louis Benetti, Sud Radio.
Après les apparitions à Fatima au Portugal, deuxième dossier avec Pierre Lagrange, qui est l'auteur d'un livre aux éditions Presse du Châtelet intitulé « OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez ». En gros, on nous cache tout, on nous dit rien. Pierre Lagrange, vous avez décortiqué tout cela pour essayer de comprendre le mécanisme des tenants de la théorie du complot, qu'ils soient d'ailleurs pour ou contre l'hypothèse OVNI ou extraterrestre. C'est ça qui est intéressant. Alors, vous vous êtes penché sur, évidemment, le seul organisme que l'on ait en France et qui existe à ma connaissance en Europe d'ailleurs.
Oui, même dans le monde.
Hein, dans le monde, qui soit payé par nos deniers, par nos impôts, uh-huh. Hein, qui est le GIPAN, le CEPRA, le GEPAN, voilà. Uh-huh. Donc vous avez remonté jusqu'au départ, à la création.
C'est-à-dire qu'en fait ce qui m'intéressait, c'était que dans ces débats sur l'existence d'un complot, bien sûr, on a commencé par soupçonner que l'armée américaine nous cachait la vérité, voilà. Et chaque fois qu'il y a une prise de position un peu publique, officielle, on va dire, sur le sujet, il y a bien sûr des soupçons qui sont générés. Parce que, quand même, depuis 1947, la constante, je dirais, sur les ovnis, c'est le public qui pose des questions, et une partie du public qui dit, on a vu des choses bizarres dans le ciel, on voudrait avoir une réponse. Mm-hmm. Et puis, on va dire, les savants ou les militaires qui ont tendance à dire, nous nous emballons pas, peut-être que ce sont des confusions, il n'y a peut-être pas de soucoupes volantes dans le ciel. Donc, c'est un peu ça, pour résumer le débat. Et c'est vrai qu'en retour, une partie des gens ont tendance à dire qu'est-ce que c'est que ces réponses un peu mielleuses. Ouais. Est-ce qu'ils en savent pas un peu plus, qu'ils veulent bien le dire. Et en 77, donc le CNES a créé une cellule chargée d'étudier les ovnis qu'on a appelé pour l'occasion les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça s'est appelé le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mmh. Et ça a été créé, alors ça c'était quelque chose de tout à fait intéressant, par à l'initiative de Claude Power, qui était un ingénieur du CNES, qui avait des responsabilités, il dirigeait le département fusées sondes, et à titre personnel, il s'était intéressé à ce sujet. Et il a réussi, à travers notamment toute une série d'études statistiques qu'il avait faites, à persuader sa hiérarchie, et notamment à l'époque Yves Sillard, qui était, je crois, directeur général du CNES, et qui aujourd'hui d'ailleurs a repris du service par rapport à cette histoire de GEPAN, et Sillard, devant le sérieux de la démarche de Power, s'est dit, on va donner des moyens. Donc lui, et je crois Hubert Curien, qui est devenu ministre par la suite de la recherche et qui à l'époque était également, je crois, le président, lui, du CNES, ont décidé la création de cet organisme. Et ce qui s'est passé, c'est que Power a travaillé pendant un an et demi. Ensuite, il a laissé la place à un jeune polytechnicien, Alain Stern, qui a pris sa suite. Mm-hmm. Et en 1983, le service a été dirigé par Jean-Jacques Velasco, qu'on a vu l'autre soir d'ailleurs sur France 3, et qui a laissé la place en 2005 à un nouveau responsable, Jacques Patenay.
Voilà, que nous avons reçu ici récemment d'ailleurs.
Que vous avez reçu, et c'est à l'occasion de la prise de direction par Jacques Patenay que le GEPAN, qui était devenu entre-temps CEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, ce qui montre que le CNES avait un peu baissé ses ambitions, puisqu'on était passé des phénomènes aérospatiaux identifiés aux rentrées atmosphériques, ce qui est un peu moins intéressant quand même. Le service donc est redevenu GEPAN, GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dès le départ, en fait dès 77, bien évidemment, comme toute prise de position scientifique ou un peu officielle, le GEPAN va être accompagné de tout un cortège de rumeurs disant que c'est encore un nouveau service chargé d'endormir le public et de cacher la vérité. Il faut savoir que par exemple en septembre 78, le GEPAN a organisé une réunion publique, semi-publique, à laquelle ont été invités tous les responsables de groupes ufologiques français.
Ouais.
Donc chaque groupe pouvait envoyer deux personnes. Ce qui fait qu'à l'époque, comme il y avait beaucoup de groupes d'amateurs ufologues en France, ça faisait quand même beaucoup de monde. Et tous ces gens se sont réunis à Toulouse, donc, et Claude Power, Alain Sterl, puis je crois qu'il y avait aussi les responsables du CNES de Toulouse, ont discuté comme ça avec ces ufologues pour savoir un peu comment le GEPAN fonctionnait, leur expliquer comment tout ça se passait, et éventuellement tracer des plans sur l'avenir pour une éventuelle collaboration.
Intéressant comme démarche d'ailleurs.
Tout à fait. C'est-à-dire que Claude Power était quelqu'un qui était un vrai chercheur et qui a un sens très concret de la démarche scientifique. Il savait très bien, par sa propre enquête personnelle, qu'il y avait plein d'amateurs. La preuve, il avait collaboré avec ces amateurs dans les années précédentes pour obtenir toutes les données qui lui ont permis de faire ses études statistiques. Donc il s'est dit, c'est pas la peine de se cacher la tête dans le sable, ces gens-là existent, il vaut mieux discuter avec eux plutôt que de faire semblant de les ignorer parce qu'on n'en retire rien de positif.
Bien sûr.
Simplement, ce qui s'est passé le jour de la réunion en 78, c'est que, alors que la majorité des amateurs étaient plutôt bien disposés, ça s'est très très bien passé, il y en a un ou deux qui ont fait un esclandre en expliquant que tout ça c'était une nouvelle commission Condon, en gros c'était un espèce d'étouffoir qui allait nous cacher la vérité.
La théorie du complot et de la désinformation.
Voilà. Et à l'époque, c'était l'écrivain de science-fiction Jimmy Dieu, qui était bien connu des cercles d'amateurs ovnis et des amateurs de science-fiction, puisque son métier, c'était écrivain de science-fiction. C'est Jimmy Dieu et paradoxalement un chercheur au CNRS, Jean-François Gilles, qui ont lancé cette idée-là. Jean-François Gilles, c'était un chercheur qui travaillait dans l'équipe à l'époque de Brandon Carter, donc qui a travaillé sur la cosmologie, et qui était passionné d'ovnis, et qui pensait qu'il y avait des complots, donc, et que le GEPAN allait faire remplir ce rôle également. Donc il y a eu toute une polémique, et à l'époque, ce sont les ufologues eux-mêmes qui ont arrêté la polémique, puisque dans les grandes revues de l'époque, comme Lumière dans la nuit, ou d'autres revues qui paraissaient, il y a eu une levée de bouclier de la majorité des ufologues qui ont dit, écoutez, les théories de Jimmy Dieu et de Jean-François Gilles, elles sont intéressantes, mais elles sont pas très productives. Il vaut mieux qu'on maintienne un dialogue intéressant avec le GEPAN, qui nous ouvre ses portes, et qu'on arrête de les accuser de ceci, cela, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler encore.
Ouais.
Donc c'était plutôt une discussion sage, une décision sage, qui montre que les ufologues sont des gens tout à fait raisonnables, plupart du temps.
Ouais. Mmh.
Et alors par contre, la situation a évolué, bien sûr, parce qu'à l'époque, Claude Poher a annoncé son départ. Il avait envie de faire le tour du monde en bateau depuis longtemps. Il a mis des années à construire son bateau personnellement.
Ce qui est une excellente excuse d'ailleurs.
Ah, c'est tout à fait une bonne raison.
Complètement, oui.
Et par ailleurs, il avait commencé à se rendre compte qu'au sein de la hiérarchie du CNES, l'histoire des ovnis, c'est quand même un sujet qui grince un peu et qui coince, on va dire. Et du coup, il se disait, je vais sans doute pas avoir tous les moyens dont j'aurais besoin pour pouvoir faire mon enquête. Mmh. Et comme, il avait cette envie de prendre un peu, de se mettre au vert.
Et puis, il y avait ce jeune polytechnicien.
Voilà. Il a donné sa démission et le projet a été confié à Alain Stern.
Mmh. Qui a même tenu un stand, d'ailleurs, je l'ai lu dans votre livre, au Bourget.
Au Bourget, oui. Oui.
Ce qui est énorme quand même, c'est bien. Voilà. Hein.
Oui, mais bon, dans les activités du CNES, celles du GEPAN, il n'y avait pas de raison de ne pas les présenter non plus.
Oui, tout à fait, oui.
Et ce qui est tout à fait intéressant de la part d'Estelle, c'est que entre 78 donc et 1983, son départ, c'est lui qui véritablement a permis de valoriser le travail et de lancer tout un tas de pistes de recherche, puisque quand Poher est parti, il y avait toute une série de volumes de recherches, de travaux qui avaient été rédigés, mm-hmm. mais qui n'étaient pas publics.
Ouais.
C'était juste destiné à la hiérarchie du CNES et au comité scientifique qui avait été mis en place pour évaluer les travaux du GEPAN.
Mm-hmm.
Mais à partir de 78, Esther l'a obtenu un peu plus de moyens, on va dire, et a commencé à faire des recherches dans tout un tas de directions et des enquêtes. Et elles ont été publiées, puisqu'il y a 18 notes techniques qui ont été publiées.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si maintenant on les trouve très facilement, mais elles doivent être disponibles sur le site du CNES, on peut les télécharger.
Mmh.
Et donc, il y a tout un tas de recherches qui ont été faites dans plein de directions, que ce soit la psychologie de la perception ou la propulsion, par exemple.
Ouais.
Puisqu'il y a une note technique qui est consacrée aux recherches sur la magnéto-hydrodynamique. Vous savez, les théories de Jean-Pierre Petit,
le
physicien du sud-est de la France, sur le mode de propulsion possible pour les soucoupes volantes.
Mmh.
Et donc, Estelle a vraiment fait faire des recherches tous azimuts, on va dire. Mais par ailleurs, comme il n'avait pas l'expérience de Poher, la même expérience que Poher avait des milieux ufologiques, il était un peu plus méfiant. Bon, d'abord, il a vu la réunion de 78, et quand il a vu Jimmy Gueux et Jean-François Gilles, il a dû se dire « on va au-delà d'un certain nombre de problèmes ». Donc, il a fait un peu profil bas, il a continué à communiquer avec les groupes ufologiques, mais je dirais de façon moins décontractée.
Mmh.
Et ce qui fait que, en plus, comme le GEPAN n'avait pas énormément de moyens et ne pouvait pas passer son temps à répondre aux courriers, et que les ufologues étant plus nombreux passaient leur temps à écrire en attendant des réponses, ça crée toujours une espèce de goulet d'étranglement.
Ouais.
Et au GEPAN, bon, tout ça pouvait difficilement être géré. Et en plus, il était délicat de donner des informations sur les témoignages, parce qu'il y a un besoin, comment dire, une nécessité
de confidentialité.
Voilà, de confidentialité des témoins.
Ouais.
Donc les ufologues ont commencé à changer un peu d'avis en se disant, mais finalement ce GEPAN il communique pas aussi bien qu'on le pensait.
Mm-hmm.
Et quelques années plus tard, on a vu apparaître des articles dans les revues qui avaient contrecarré dans un premier temps Jimmy Gueux, et en disant, ben peut-être que le GEPAN est en train de nous refaire le coup qu'on a déjà vu et de se garder tout pour lui. Et c'est là où, je dirais, la théorie d'une espèce de secret est arrivée dans les cercles d'amateurs d'OVNI, et il y a une espèce de défiance par rapport au GEPAN. Alors quand, en 83, Esther est partie, et que par la suite, en 87 et en 88, le GEPAN est devenu CEPRA, et donc est passé de l'étude des OVNI, en gros, à l'étude des rentrées atmosphériques,
mm-hmm.
là, les ufologues se sont dit, bon, ben les jeux sont faits, quoi. En gros, on n'en tirera plus rien, et il se passera rien. Et moi, je me souviens très bien qu'en 1900, alors en plus, il y a eu tout un tas d'affaires qui ont alimenté un peu la chronique ufologique, et notamment en 1990, à l'époque où on voyait énormément d'ovnis en Belgique, il y a eu une observation d'ovnis stupéfiante au-dessus de la France. C'était le 5 novembre, des milliers de gens sur le territoire ont vu un truc très lumineux passer, traverser le ciel. Et là, les ufologues français se sont dit, ben voilà, on tient notre ovni. Vraiment quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Et au bout d'une semaine, le CNES a expliqué à la presse qu'en fait, c'était pas du tout des ovnis, c'était un troisième étage de fusée russe qui était retombé dans l'atmosphère.
Voilà, qui rentrait en atmosphère, voilà, qui consumait.
Et qui s'était consumé et qui avait donc produit comme une superbe étoile filante, en gros.
Mm-hmm, ouais.
Et là, ça s'est mal passé, en gros. C'est-à-dire que les ufologues, une partie des ufologues n'ont pas accepté la théorie du CNES. Et alors je me souviens, ça devait être en 91 ou 92, tout en janvier, Jean-Jacques Velasco, qui était responsable du GEPAN, a été invité à faire une conférence au Palais de la Découverte sur les ovnis. Et malheureusement pour lui, il y a plein d'ufologues qui ont décidé de venir écouter la conférence, parce qu'ils voulaient avoir des réponses sur cette histoire du 5 novembre.
Ouais.
Et la conférence a très mal tourné, puisque bon, il a répété lui ses explications en disant que c'était un étage de fusée russe qui était rempli d'atmosphère.
Voilà.
Mais les ufologues, ceux qui étaient dans la salle, au moins une partie, n'étaient pas d'accord, et ça a presque tourné au pugilat. Donc voilà l'état d'esprit qui était celui de la communauté ufologique par rapport aux études officielles à ce moment-là. Mmh. Alors ensuite, les choses ont évolué, et c'est là où c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que Jean-Jacques Velasco, qui au début s'était intéressé à ce sujet dans le cadre de sa mission du CNES, confronté de plus en plus aux ufologues, à la littérature ufologique et tout, a fini par s'intéresser beaucoup lui-même à tout ce qu'il racontait. Et notamment au début des années 90, à ces histoires de Roswell et autres qui ressortaient, puisque c'est en 1988 que des enquêteurs américains, des ufologues, notamment du QFOS, du Centre d'études des OVNI qui avait été fondé par un astronome, Alan Hynek, ont commencé à revenir à Roswell pour essayer de rouvrir l'enquête et se dire qu'est-ce qu'il en est de cette affaire. Et donc, les thèses sur un secret caché ont commencé à se diffuser. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que à cette époque-là, donc le CNES, je dirais là aussi, il y a toute une ambiguïté dans la démarche du CNES, c'est-à-dire que la direction du CNES avait décidé de la création de ce GEPAN, l'a ensuite transformé en CEPRA, donc l'a un peu laissé à l'abandon, et a laissé à l'abandon Velasco, qui a, comment dire, travaillé, était obligé de mettre sa propre énergie dans l'histoire, mais n'était pas tellement soutenu par sa hiérarchie. Ce qui fait que peu à peu, il s'est intéressé justement à tout ce qui circulait dans les milieux ufologiques, et lui-même, et d'ailleurs il n'a pas été le seul, a commencé à se dire, mais dans cette histoire d'OVNI, il y a peut-être beaucoup plus que ce qu'on nous dit, et peut-être que les Américains, avec lesquels il avait peu de relations, sinon avec des ufologues amateurs, peut-être qu'aux États-Unis, on en sait plus qu'en France sur le sujet.
Mmh.
Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, alors que les ufologues accusaient le CNES de cacher la vérité sur les OVNI, Velasco, qui travaillait pour le CNES sur les ovnis, a commencé à se dire, mais peut-être qu'effectivement on nous cache la vérité. Bon, pas lui, bien sûr, mais d'autres ailleurs.
Ouais.
Et donc, ce qui est tout à fait intéressant dans cette théorie du complot, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est un registre d'explication qui fonctionne très bien pour les ovnis et que on peut tous en emparer à un moment ou un autre, parce que c'est vrai que dans ce genre de débat, et quand on voit les réponses qui sont faites, qui sont selon les personnes diamétralement opposées, c'est-à-dire que les théories sur les ovnis, ça va de « ce sont des hallucinations » à « on est visité par les extraterrestres
ouais. ».
Donc quand on pense qu'on est visité par les extraterrestres, il est difficile de prendre au sérieux quelqu'un qui vient de vous dire « ce sont des hallucinations ». Et vice-versa.
Ouais.
Donc il est très facile de se dire « celui qui me parle là, qui n'est pas d'accord avec moi, en fait il se paye ma tête ». Et c'est ça qui est en gros, qui a contaminé, je dirais, tout le débat sur les ovnis. Cette idée que dans le débat sur les ovnis, les opinions sont tellement tranchées, tellement différentes, qu'il y a une partie des acteurs qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Et donc, la théorie s'est alimentée. Alors d'un côté, on a vu comme ça des ufologues, ou même Jean-Jacques Velasco qui se dit « il y a peut-être un complot pour cacher la vérité », et de l'autre, comme je disais tout à l'heure, les rationalistes qui, eux, disent « ce service du CNES, par exemple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient de créer un service pour étudier les ovnis alors qu'on sait que tout ça n'existe pas ?» Vous voyez, il y a comme ça des réactions extrêmement tranchées, et chacun voit un complot chez le voisin, en gros.
Ouais. Mais alors, dites-moi, dans ce ballet d'opinions aussi contradictoires que violentes les unes envers les autres, vous êtes vu comment par toute cette communauté ufologique? Parce que finalement, si je puis me permettre l'expression tout à fait triviale, vous avez le cul entre deux chaises.
Ben, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que il y a plusieurs problèmes, en fait. C'est que moi, j'entretiens de très bonnes relations avec beaucoup d'ufologues. Je pense notamment aux enquêteurs de la SOBEPS, que je connais depuis des années, avec qui je m'entends vraiment très bien, ou avec tout un tas d'enquêteurs en France, en Suisse.
La SOBEPS qui est en Belgique.
Oui, qui est en Belgique, et la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux, qui est celle qui a géré toutes les enquêtes sur la vague en 1989-90,
et qui a
fait un travail tout à fait remarquable. Donc il y a des ufologues dans tous les pays, et j'entretiens d'excellentes relations avec tous les gens qui sont vraiment, je dirais, au cœur de tout un tas de recherches là-dessus.
Mmh.
Par ailleurs, je l'ai noté plusieurs fois, et c'est que le fait d'être sociologue, la sociologie, je dirais, a une certaine image. Et on attend toujours, et je le vois bien d'ailleurs avec les journalistes qui viennent me voir, on attend souvent d'un sociologue, notamment d'un sociologue qui s'intéresserait à un truc comme les ovnis, qui vient nous expliquer pourquoi les gens croient n'importe quoi, en gros. Cette idée, il y a une idée quand même qui circule beaucoup, c'est que les ovnis sont des fables ou des illusions, et que les gens qui croient aux ovnis sont des naïfs. Et donc, on demande souvent aux sociologues, venez nous expliquer, puisque vous vous intéressez à la sociologie, justement, aux influences culturelles et tout ça, venez nous expliquer pourquoi les gens croient à des choses qui n'existent pas.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que la sociologie a beaucoup évolué et que c'est pas mon métier. Moi, la sociologie qui consiste justement à expliquer que les gens croient n'importe quoi, c'est pas ma tasse de thé. Et si je fais de la sociologie, c'est justement en réaction à cette attitude. C'est-à-dire qu'à l'époque où, quand j'étais étudiant, où je suis allé trouver des sociologues pour travailler avec eux et pour apprendre ce métier, c'était parce que au sein de la sociologie, s'était développé un courant qui réagissait à ce qu'on appelle la sociologie réductrice. C'est-à-dire que c'est traditionnellement la sociologie qui existe depuis 150-200 ans. C'est vrai qu'il y a cette tendance depuis longtemps à vouloir expliquer les mythes, les croyances et les idéologies. Et du coup, à souvent réduire l'autre à être un idéologue ou un croyant ou un naïf. Mais il y a toute une tendance nouvelle de la sociologie qui s'est développée depuis, je dirais, une trentaine d'années,
mm-hmm.
qui consiste au contraire à prendre le contre-pied de ça et à dire non, on ne fait pas de la bonne sociologie si on se contente de traiter de naïfs nos contemporains. Et un sujet comme les ovnis, par exemple, on fait une erreur si on le prend a priori comme une croyance. C'est que de la même façon, si on étudie, par exemple, si on s'intéresse au travail des scientifiques, on ne va pas les accuser de croire n'importe quoi. Donc, on n'a pas de raison d'accuser une autre partie de la population d'être des naïfs, crédules et tout ce qui s'ensuit. Et si je me suis intéressé aux ovnis, c'est pas du tout avec l'idée de démonter un mythe ou une croyance, mais c'est plutôt avec l'idée de m'interroger sur les raisons pour lesquelles on réduit l'ovni à un mythe et à une croyance. Donc, c'est exactement la démarche contraire. Le problème, c'est que comme la sociologie est une discipline qui est très peu vulgarisée dans la société, la plupart des gens, quand ils entendent sociologue, ils disent « bon, on sait ce qu'il va nous dire ». Et c'est ça le vrai souci. C'est que, en gros, je ne sais pas, il faudrait peut-être inventer un nouveau mot, je ne sais pas comment il faut faire, mais le terme de sociologue est très connoté. Il est aussi connoté négativement, du coup,
ouais.
parce que c'est vrai que dans les années 70, il y a toute une partie des ufologues qui sont devenus des psychosociologues, comme on dit dans le jargon des amateurs d'OVNI. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la communauté des ufologues qui sont devenus sceptiques. Des gens, donc c'était des amateurs d'OVNI qui jusque-là pensaient que les OVNI existaient et qu'ils étaient peut-être d'origine extraterrestre, et qui, à partir de 77, certains d'entre eux ont dit « si ça se trouve, on étudie un truc qui n'existe pas ». Et ils sont devenus sceptiques, et ils ont élaboré des théories qui, à l'inverse de l'hypothèse extraterrestre, consistaient à réduire tous les OVNI à des méprises. Et donc leur discours, ça a été de dire « mais tout ça, en fait, c'est un mythe, c'est une croyance, et les gens croient voir des ovnis, mais il n'y a rien à voir ». Et ça s'est appelé l'hypothèse sociopsychologique.
Ouais.
Alors évidemment, le problème, c'est qu'ils ont repris eux-mêmes cette espèce d'image de la sociologie comme étant, en gros, la chasse aux croyances et à la crédulité. Ce qui fait que quand on vient derrière tout ça, derrière l'expérience, du coup, que les ufologues ont de cette idée que certains d'entre eux sont devenus des mécréants parce qu'ils ont tout réduit à un phénomène social, quand on vient derrière et qu'on leur dit « ben moi je suis sociologue et je m'intéresse aux ovnis », ils disent « c'est pas de bon augure, quoi. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ?» Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à dire « je suis sociologue, je m'intéresse aux ovnis, mais je fais pas ce que vous croyez que je fais. Et je dis pas ce que vous croyez que je dis. » Et par moments, c'est vraiment très difficile. Je me suis retrouvé dans des discussions face à des gens qui n'écoutaient pas ce que je racontais. Alors, il y a aussi le fait que la sociologie, c'est aussi un métier, ça s'apprend. Donc, quand moi je parle de mon métier, les gens qui m'écoutent n'ont pas la même familiarité que moi avec le métier, et je peux employer des mots qu'ils ne comprennent pas.
Mm-hmm.
Donc, je comprends tout à fait que ça soit pas facile. Par ailleurs, moi, je me souviens les premières fois où j'étais invité à parler à la radio ou à la télé, quand j'ai fait mes premières publications, c'était en 1990. On est très mal à l'aise, on a le trac, on ne sait pas trop comment s'exprimer. Là aussi, parler dans un micro, ça s'apprend. Et savoir employer les mots qui permettent de faire passer ses idées, c'est pas quelque chose qui vient spontanément. Bon, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Moi, j'étais pas doué pour ça. Donc, c'est un truc qu'on apprend peu à peu. Et ce qui fait que on part avec de gros handicaps. D'abord, il faut s'exprimer en public. Ensuite, il faut aller contre les idées reçues de sa discipline. Et ensuite, il faut aller contre toutes les idées reçues qu'a le public sur l'image de la sociologie. Donc, ça fait une série de sauts d'obstacles où on a toutes les chances de se vautrer avant d'avoir sauté le dernier obstacle. Donc voilà la difficulté. Ce qui fait que, comme en plus, en 1996, j'ai publié un livre sur Roswell dans lequel j'ai expliqué que je ne croyais pas à l'affaire de Roswell, du coup, je me suis rajouté moi-même une difficulté dans l'histoire, parce que les gens se sont dit, s'ils ne croient pas à Roswell, ça veut dire qu'ils ne croient pas aux ovnis. Non, je ne crois pas à l'affaire de Roswell, mais le reste du dossier des ovnis, au contraire, je le prends très au sérieux.
Mmh.
Et je connais plein d'enquêteurs en France ou ailleurs, qui sont des gens qui s'intéressent très sincèrement aux ovnis et qui pensent que les ovnis existent, pour aller vite, mais qui ne croient pas non plus à Roswell. Donc, c'est vraiment un sujet très délicat et c'est toujours très difficile de s'exprimer sur ces questions et comment dire, d'apporter un avis nuancé sans que ça réduit à une espèce de prise de position un peu grossière et vulgaire, quoi.
Ouais. Pierre Lagrange, une pause et juste après cette pause, on abordera parce que l'heure tourne et il nous reste, j'allais dire, que trois quarts d'heure à passer ensemble. Mais bon, on a pas mal de sujets à aborder ensemble, notamment l'hypothèse extraterrestre. Qu'est-ce qu'on doit en faire? La jeter aux orties, la garder sous le coude, la mettre sous un microscope pour l'étudier de manière rigoureuse et sérieuse et, j'ajouterais, sereine. Sans a priori et sans préjugés, nous allons en parler avec vous dans quelques instants.
Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Benedi.
OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est le titre du dernier ouvrage de Pierre Lagrange, publié aux éditions Presse du Châtelet. Pierre Lagrange, qui est mon invité ce soir dans Étrange Été. Question suivante, évidemment, qui continue à dérouler dans le sens de notre conversation. Comment, selon vous, doit-on étudier ces phénomènes OVNI?
Oula, ça c'est une vaste question.
Oui.
C'est-à-dire que bon, c'est vrai que souvent, bon, on discute à propos des témoignages, bien sûr, puisque c'est la base du dossier des ovnis. Mm-hmm. Donc il y a des gens qui rapportent avoir vu des choses dans le ciel,
voilà.
Et ça a entraîné depuis 1947 tout un tas de polémiques. Notamment, bon, on connaît les réponses classiques qui sont faites. Le témoignage humain n'a aucune valeur. Les témoins ont vu quelque chose, mais ils ont pu se tromper, etc., etc. Et ça a souvent longtemps servi d'argument pour dire. Le sujet n'a pas l'intérêt que croit le grand public. Le problème, c'est qu'on peut prendre le sujet à l'envers. Est-ce que quand les scientifiques ont commencé à faire ces réponses en 1947, à dire aux journalistes qu'on prenait les ovnis, ça doit être des hallucinations ou c'est des confusions avec des ballons sondes, des choses comme ça, de fait, ils n'avaient pas étudié la question eux-mêmes. Donc, quand on lit la presse dès 1947, on se rend compte qu'il y a... les scientifiques qui sont invités à répondre à l'énigme des soucoupes volantes ne font pas vraiment des réponses de scientifiques, c'est-à-dire que ce sont des physiciens la plupart du temps qu'on interroge, et curieusement ils se mettent à parler de psychologie, de sociologie, d'hallucinations et des choses comme ça. Et ça c'est tout à fait curieux. Moi c'est un truc qui m'a toujours étonné, quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait des photocopies de centaines de coupures de presse partout où j'allais dans les bibliothèques municipales et je photocopiais la presse de 1947, et toutes les réponses qu'il y avait tout le temps, c'était des réponses comme ça, oui les gens ont dû se tromper, ça doit être des hallucinations et trucs comme ça. Et ça qui était fait par des physiciens, bon, le métier des physiciens c'est faire de la physique, pas de faire de la psychologie. Et ça m'intriguait beaucoup. Et en fait, quand on accumule tout ça, on se rend compte que ce qui se passe en 1947, c'est qu'il n'y a pas un débat scientifique sur les ovnis. Il n'y a pas une véritable discussion comme on aurait une discussion entre scientifiques sur n'importe quel sujet de recherche. Leur problème, c'est de se débarrasser du sujet. C'est que cette histoire de soucoupe volante, pour eux, comme ça vient du public, c'est pas sérieux. Ça sent pas bon, quoi. Et donc, leur réponse consiste à se débarrasser du problème. Et pas aller enquêter dedans, parce que ça prendrait du temps et tout, et ils estiment qu'ils n'ont pas le temps à donner à cette énigme populaire. Et donc, le problème, c'est que ces réponses qui sont faites en 47, on les retrouve dans les années 50, on les retrouve dans les années 60, et jusque dans les années récentes, on les retrouve encore. Il y a toujours des gens pour dire, les témoins ont vu des choses, mais vous savez ce qu'un témoignage ne vaut rien, on peut rien en tirer, etc., etc. La vraie question, c'est, est-ce que si on s'adresse au public et qu'on prétend parler de science, est-ce qu'on peut donner une réponse comme celle-là, et est-ce qu'elle suffit, et est-ce qu'elle est sérieuse en gros?
Oui.
Moi je pense que non.
L'histoire a prouvé que non en tous les cas.
Non, c'est-à-dire que quand on veut instaurer un dialogue entre la science et le public, je pense pas que ça soit une très bonne façon de donner envie aux gens de s'intéresser à la science. Parce que la science c'est autre chose que de jouer un peu au détective et d'aller expliquer les choses par des erreurs. La science, le but de la science, c'est de découvrir de nouvelles choses. C'est pas de passer son temps à dire tout ça n'est pas intéressant.
Oui.
Et donc, dans la question OVNI, on peut tout à fait imaginer, alors ça je peux le comprendre par contre, que les scientifiques n'aient pas été intéressés par les OVNI. Mais auquel cas, il fallait le dire. C'est tout simple. Or, ils n'ont pas dit « ça ne m'intéresse pas ». Enfin, le seul qui l'a dit, c'est Einstein, curieusement. Einstein, en 1947, je crois, des journalistes arrivent à l'attraper à Princeton et lui disent « alors ces histoires de soucoupes volantes, vous en pensez quoi ?» Et Einstein fait cette réponse, il dit « des gens ont vu quelque chose, très bien, mais moi ça ne m'intéresse pas. » Et donc, il fait une réponse tout à fait honnête. En gros, j'ai autre chose à faire que m'intéresser à ça. Alors que ses autres collègues ne disent pas ça. Ils disent, ça doit être ceci ou ça doit être cela. Ils donnent des réponses. Mmh. Et c'est là où il y a une ambiguïté. C'est qu'on peut tout à fait comprendre qu'un pêcheur à la ligne ne s'intéresse pas à la philatélie et vice-versa.
Ouais.
Mais, et donc, des scientifiques qui font de l'astronomie, par exemple, ne s'intéressent pas aux témoignages humains ou des choses de ce genre.
Oui, pourquoi pas.
Voilà. Ouais. Mais auquel cas, il faut le dire. C'est très simple. Alors que là, ils vont essayer de donner une réponse. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de conforter le public dans l'idée qu'eux, ils ont la réponse et ils vont la donner. Or, les gens ne sont pas idiots et très rapidement, ils se rendent compte que ces réponses ne sont pas sérieuses.
Donc là, erreur. On a bien compris.
Et là, il y a une erreur. Il y a vraiment une erreur de stratégie.
D'accord.
Et c'est vrai que, surtout depuis, on a vu que des scientifiques se sont intéressés au sujet et que quand ils s'intéressent au sujet, ils butent sur un problème auquel ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc, il y a bien une énigme.
Ouais.
Et il y a bien une question qui est posée. Et c'est pas parce que ça vient du public que c'est forcément sans intérêt. En plus, maintenant, on le sait très bien. Pendant longtemps, on considérait qu'il y avait les experts d'un côté et les ignorants de l'autre. Mais aujourd'hui, avec les associations de malades, avec tous les débats publics qu'il y a sur les OGM, sur le nucléaire et sur tous ces sujets-là, on voit bien que ça concerne aussi le public, ces questions de science. Donc, quelque part, la démarche qui consiste à dire, on a vu quelque chose et on aimerait que les scientifiques nous donnent une réponse, c'est pas une démarche qui est malsaine, c'est une démarche qui, au contraire, est tout à fait saine et montre que les gens sont curieux et ont envie d'en connaître un peu plus sur le monde qui les entoure.
Mmh.
Donc, leur faire une réponse en leur disant, écoutez, allez voir le psychiatre, c'est pas une réponse très habile.
Ouais. Alors, donc, revenons à la question initiale, comment doit-on étudier les phénomènes OVNI?
Alors, moi, ce qui m'a intéressé, comme ma formation, c'est l'étude du travail scientifique, à la base, c'est-à-dire, qu'est-ce que font les scientifiques pour étudier la nature? En gros, pour aller vite.
Mmh.
Mais ils se contentent pas d'attendre que des choses arrivent. Les scientifiques, depuis des centaines d'années, construisent des laboratoires, forment des étudiants, construisent des instruments, et avec tout ça, ils ont, en gros, permis de révolutionner notre image de la réalité. Pendant longtemps, on a cru que la Terre était au centre du monde. Maintenant, on sait que le cosmos est infini, qu'il est peuplé de soleils, de planètes et tout ce qui s'en suit.
Mmh.
Et ça, pour tous les domaines d'investigation scientifique.
Ouais.
Donc, la première démarche, je dirais, c'est la curiosité. Et puis, cette capacité à construire les outils qui vont nous permettre d'appréhender un problème. Pour les ovnis, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a des gens qui viennent nous dire « on a vu quelque chose », mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut appréhender ça? Et quand il s'agit justement d'observation, la science a élaboré des méthodes pour étudier les observations. On peut prendre un exemple qui est très classique, c'est l'étude des météorites. Pendant très longtemps, les météorites, c'était un peu comme les ovnis. Les scientifiques disaient, c'est des croyances populaires, il n'y a pas de pierre qui tombe du ciel. Et puis un jour, en 1803, un jeune académicien, Jean-Baptiste Biot, a démontré devant l'Académie des sciences que, il y avait des pierres qui tombaient du ciel.
Ouais.
Et que les gens qui avaient vu ça n'avaient pas eu d'hallucination, ils avaient vraiment vu des cailloux tomber du ciel.
Mmh.
Et ça, il l'a fait comment? Il est allé sur les lieux, il a recueilli les fameux cailloux, et puis surtout, il a associé ça avec une théorie du cosmos, qui était celle de Laplace, qui consistait à dire, il y a effectivement des corps qui circulent dans le système solaire et qui parfois peuvent croiser l'orbite de la Terre. Et du coup, ces observations ont eu du sens, elles ont signifié quelque chose. Le problème des ovnis, c'est d'abord de se dire comment est-ce qu'on va étudier ces témoignages pour éventuellement en tirer des faits qu'on puisse étudier, et de l'autre, quelle théorie on peut mettre à côté pour essayer de les comprendre. Parce que en science, il y a aussi une idée reçue, c'est que la science, c'est pas simplement accumuler des faits. La science, c'est accumuler des faits, mais les comprendre, pour essayer d'en tirer quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble de la société. Par exemple, Pasteur, au 19e siècle, son but, c'est pas simplement de prouver que les microbes existent. C'est non seulement d'établir l'existence des microbes, mais également d'en tirer des vaccins et
d'éradiquer une maladie.
Voilà, d'éradiquer des maladies et de changer la société. Donc, on voit bien qu'il y a toujours une signification profonde à ce qu'on fait en science. Donc, sur la question des ovnis, c'est pareil. Des gens voient des choses. Qu'est-ce qu'ils voient? Comment l'étudier? Et comment en tirer quelque chose qui va apporter à l'ensemble de la société?
Mmh.
Et sur l'histoire des ovnis, justement, comme on parlait des météorites, les astronomes amateurs, les gens qui étudient le ciel et tout, ont des méthodes éprouvées pour étudier les témoignages. Et moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire d'OVNI, c'est que depuis 1947, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Pour prendre un exemple très simple, on demande, cette histoire de témoignage, on demande toujours aux gens, racontez-nous ce que vous avez vu.
Ouais.
Et là, on dit, regardez ces témoignages, on nous dit que ça ressemble à une casserole, que ça faisait 7 mètres de diamètre, des trucs qui sont des données inutilisables, en gros, parce que les gens estiment la taille de l'objet alors qu'ils ne connaissent pas sa distance, donc ils se trompent.
Mmh, mmh.
Et Le problème, c'est que, à mon avis, l'erreur, elle vient pas des témoins, elle vient des scientifiques qui posent ces questions-là. C'est que, pour prendre un autre exemple, personne ne s'étonnerait que si on demande à quelqu'un de dessiner, par exemple, quelqu'un assiste à un accident,
oui.
On va pas lui demander de dessiner la scène, parce que très peu de gens savent dessiner au point de restituer des détails très précis. La plupart d'entre nous, on ne sait pas dessiner.
Mm-hmm.
Simplement, c'est la même chose, la plupart d'entre nous, on ne sait pas décrire, parce que décrire... Alors évidemment, quand il s'agit d'écrire une scène familiale ou chose comme ça, évidemment on peut parce qu'on parle entre personnes qui ont assisté à peu près à la même scène ou qui connaissent les mêmes personnes. Mais s'il s'agit de décrire une situation tout à fait différente et qui doit faire appel à un langage scientifique et technique précis, ben ça on n'a pas les outils. On n'a pas été éduqué pour faire ce genre de description. Donc demander à quelqu'un de nous décrire un truc qu'il aurait vu dans le ciel, ben c'est comme si on lui demandait de le dessiner et de nous faire un dessin qui serait du niveau des grands dessinateurs actuels. Mmh. Ça n'a pas de sens.
Donc il faut créer un outil pour pallier
à ce
problème.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que toutes les critiques qu'on a fait aux témoins en disant « Regardez, ils ne savent pas décrire et tout », ce ne sont pas de bonnes critiques parce que la critique, c'est aux scientifiques qu'il faut la faire. C'est aux scientifiques d'élaborer l'outil qui va permettre aux témoins d'apporter des informations intéressantes. Et pour parler de psychologie, tous les psychologues savent que nous sommes très mauvais pour décrire quelque chose. Par contre, nous sommes très bons s'il s'agit de reconnaître quelque chose.
Oui.
Et on le sait bien. Il suffit de faire un tout petit peu d'introspection. On sait très bien qu'on a des images mentales dans la tête. Alors, ça dépend de la psychologie de chacun. Il y en a qui ont de bonnes mémoires visuelles et d'autres un peu moins. Mais une bonne partie d'entre nous, on a une bonne mémoire visuelle. Donc, si on nous montre quelque chose, on saura reconnaître entre telle chose et telle autre. Par contre, si on nous demande de décrire la même chose, ben, on n'a pas le vocabulaire. C'est tout. On n'a pas les outils pour décrire. Donc pour les ovnis, c'est très simple. Au lieu de demander aux gens, racontez-nous, décrivez-nous ce que vous avez vu avec tous les détails, eh bien construisons un outil, par exemple, qui consiste à, comme dans la police, à établir le portrait robot de ce qui a été vu. Et là, la personne pourra, sur des matrices de formes, de couleurs et autres, choisir quelle est la bonne forme, la bonne couleur, le bon ciel, etc., etc.
Il y a d'ailleurs en construction, il me semble, puisqu'on a reçu un informaticien à l'antenne dans Les Aventuriers de l'étrange, qui est en train de mettre au point justement un logiciel qui permet aux témoins de dire bah voilà, le ciel était de cette couleur, là il y avait des collines, il y avait plutôt des arbres, effectivement ça ressemble à telle forme, et ensuite de faire en 3D quasiment la mise en situation de la scène.
C'est ça. C'est-à-dire que pendant des années, moi je me suis promené, parmi les gens qui s'intéressent aux ovnis, scientifiques ou amateurs, en leur disant, voilà comment il faudrait faire. Et je voyais que les gens continuaient à faire leurs enquêtes. Mmh. Puis, il y a quelques années, j'ai fait la connaissance de Jérôme Beau, qui est un informaticien, alors qu'il maîtrise tout un tas d'outils auxquels moi je ne connais rien, et qui m'a dit, mais d'abord qui était intéressé déjà par ces questions-là, et qui s'est dit, mais ça on peut le construire. Et d'ailleurs, j'en avais aussi discuté avec Pierre Massias, qui est votre collaborateur, qui m'avait déjà mis sur la piste d'un certain nombre de personnes et d'outils pour essayer de construire ça.
Mmh. Il est bien, ce Pierre. Hein.
Oui, tout à fait. Il peut être tout à fait utile dans ce genre de situation. Et donc, Jérôme s'est mis au travail. Il a construit un premier prototype de cet outil. Donc, l'idée maintenant, c'est de le tester.
Ouais.
Et donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait un exposé devant les gens du CNES, donc du GEPAN.
Mm-hmm.
Et Jacques Patenet s'est intéressé à l'idée. Et donc, je pense qu'on va maintenant pouvoir aller plus loin dans cette direction. Mais on voit vraiment que là, c'est une toute autre stratégie. Alors, en plus, très honnêtement, je ne suis pas l'inventeur de l'idée. Je l'ai reprise d'un psychologue américain qui s'appelle Roger Shepard, qui est un très grand psychologue, qui, en 1968, avait dit déjà qu'il fallait faire ça. Donc, c'est pas d'aujourd'hui.
Ouais.
C'est une vieille idée. Alors, je comprends que pendant longtemps, elle était difficile à rendre concrète parce qu'on n'avait pas la micro-informatique, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tous ces outils-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On peut construire ces outils-là. Simplement, comme toujours, les gens choisissent la facilité. Et le résultat concret, c'est qu'en fait, le débat piétine et on n'arrive à rien de concret.
Mmh. Alors, quand est-ce que ce sera opérationnel? Parce que là, finalement, vous ouvrez des perspectives qui sont tout à fait intéressantes.
Oui, c'est-à-dire que Jérôme a beaucoup travaillé sur le projet. On a déjà un premier prototype. L'idée, c'est de le tester sur certains témoignages et d'arriver à l'améliorer pour le rendre. L'idée, c'est de le rendre très très pratique et très concret parce que s'est rendu compte quand même au fur et à mesure qu'on teste ce genre de choses, on voit il y a de nouvelles difficultés qui apparaissent, notamment qui est celle de construire un outil que les témoins pourraient utiliser facilement. On se rend compte que pour l'instant, il faut encore quelqu'un qui sache manier l'outil et qui soit là, un peu comme d'ailleurs dans les enquêtes de police, il y a une personne qui fait le portrait robot avec le témoin.
Oui.
Donc je pense qu'il faut encore plusieurs personnes. Mais ce qui serait extraordinaire, ça serait d'arriver à un outil qui serait disponible sur Internet, par exemple, et où les gens pourraient mettre leur témoignage et utiliser avec vraiment une interface très simplifiée,
où les gens
pourraient l'utiliser eux-mêmes. Mais déjà, ce qui est important, c'est d'avoir l'outil, de commencer à les tester et de voir dans quelle mesure ça nous permet d'avoir des données de meilleure qualité. Mais je pense que ça peut contribuer énormément à faire avancer le débat.
Donc, nous en sommes là maintenant à cette, on va dire, on va se projeter un petit peu dans l'avenir et mettre tout ça en perspective. On dispose de cet outil, on recueille grâce à cet outil des informations un petit peu plus exploitables d'une manière scientifique, je dirais. Ce qui permet donc, j'imagine, d'affiner le témoignage, d'affiner l'analyse, d'éliminer des cas d'observation dont on aurait pensé avant cet outil qu'il aurait pu s'agir de quelque chose qu'on ne comprend pas, donc là, une compréhension plus fine, et il reste toujours un résidu de cas qui résiste à l'analyse, comme tout le temps, ça c'est tout à fait normal.
Le but, c'est justement d'isoler ces cas.
Voilà, tout à fait, nous sommes entièrement d'accord. Alors, que doit-on faire ou que doit-on penser, selon vous, de l'hypothèse extraterrestre? Est-ce que on la garde? Est-ce que on l'élimine? Est-ce que on se la met sous le coude? On en fait quoi?
Je pense qu'on la garde. De toute façon, depuis 1947 et surtout depuis 1950, le débat sur les ovnis est étroitement associé au débat sur l'hypothèse extraterrestre.
Bien sûr,
c'est pas un hasard. Donc, je pense qu'on la garde pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça met du piment dans la réflexion. Et je vois pas pourquoi on discuterait de choses pas intéressantes alors qu'on a un sujet tout à fait passionnant à côté.
Bien sûr.
Ensuite, parce que souvent, alors là, c'est encore un travers dans le débat sur les ovnis. Souvent, on dit, regardez, les gens croient aux ovnis, croient aux extraterrestres, ils mélangent tout, etc., etc. Non. Là, je suis pas d'accord. C'est pas le public qui mélange tout. C'est que si on s'intéresse au débat sur la pluralité des mondes habités sans les soucoupes volantes, ce sont les scientifiques qui ont mener la réflexion de telle façon que, en gros, si les ovnis n'existaient pas, il aurait fallu les inventer. Alors, je vais expliquer pourquoi, c'est très simple. En 1950, Enrico Fermi, qui est un physicien à Los Alamos, qui est un des grands physiciens du XXe siècle et qui a participé à la construction de la bombe atomique, donc, discute avec ses collègues scientifiques au cours d'un déjeuner, et il discute notamment de cette question de la pluralité des mondes habités. Donc maintenant, on sait bien, depuis le XVIIe siècle, Giordano Bruno et tout, que en gros, notre cosmos est infini, quasiment, et on a ce qui s'est passé sur Terre, c'est-à-dire que dans le système solaire, on a le Soleil, les planètes, et la Terre parmi ces planètes. Et on se dit, ce qui s'est passé, en gros, dans le système solaire, ça a dû se passer ailleurs, c'est-à-dire qu'ailleurs, il doit y avoir, les étoiles sont aussi des soleils, elles doivent être entourées de planètes, et certaines de ces planètes, il doit y avoir de la vie. Donc Enrico Fermi...
Ce qui paraît tout à fait raisonnable de penser ça, du reste.
Ça, je dirais, c'est un espèce de modèle standard de réflexion en science. Ça n'a rien d'extraordinaire.
Tout à fait.
Alors, ce que fait Fermi, par contre, il va un peu plus loin dans la réflexion, et il fait une constatation assez simple, il dit, mais si effectivement il y a de la vie ailleurs, vu le nombre d'étoiles, vu le nombre de galaxies, vu le nombre d'amas de galaxies, je veux dire, on parle en milliards de milliards d'étoiles. Donc quelque chose qui est tout à fait impossible, c'est plus que les grains de sable sur une plage en été. Donc c'est quelque chose d'hallucinant. Et si ne serait-ce qu'une fraction de ces étoiles ont des planètes et sur lesquelles il y a de la vie, il faut savoir qu'une partie, comme nous, notre planète et la vie sur Terre, c'est quelque chose de très récent.
Oui, on est des gamins.
C'est très jeune. Donc il est tout à fait possible que sur d'autres astres, la vie soit apparue bien plus tôt que sur Terre. Et puis quand on dit bien plus tôt, c'est pas 10-15 ans, c'est 1 million, 10 millions, 100 millions d'années plus tôt. Donc nous, notre civilisation, pour prendre par exemple l'histoire des sciences, notre civilisation, ça fait 400 ans qu'on fait de la science expérimentale. Ça fait à peine un siècle qu'on a commencé à quitter la Terre, c'est-à-dire qu'on a appris à voler et à aller dans l'espace. Donc notre civilisation est toute jeune. Si on imagine que d'autres civilisations ailleurs ont fait ça, ce qu'on fait nous, il y a 1, 10, 100 millions d'années, où est-ce qu'ils en sont actuellement? Donc Enrico Fermi a fait un constat très simple, il dit, mais s'il y a des extraterrestres, statistiquement, il y en a une partie qui sont beaucoup plus vieux que nous, donc ils devraient déjà être ici. Où sont-ils? Et ça, c'est devenu la question qui taraude les scientifiques.
Où
sont ces fichus extraterrestres qui devraient déjà être ici? Donc on voit bien que dans la réflexion telle qu'elle est posée par Fermi, l'hypothèse OVNI s'impose. C'est ce que disait Aimé Michel en 73 dans un texte remarquable. Aimé Michel, c'est un des pionniers de l'étude des soucoupes volantes. Et en 73, il publie un texte qui s'appelle « Le principe de banalité ». En gros, le principe de banalité, c'est ce qui s'est passé sur Terre, c'est banal, donc ça a dû se passer ailleurs dans le cosmos, très souvent.
Ouais.
Et il disait ben, « La science prévoit quelque chose comme les ovnis ». C'est-à-dire que la science nous indique que nous devrions être visités, donc nous devrions nous attendre à voir, percevoir, détecter quelque chose. Donc, on voit bien que le problème se pose à l'envers. C'est pas en renvoyant les témoins chez le psychiatre qu'on va résoudre la question. Mais c'est au contraire, quand on se penche sur la question scientifique de la pluralité des mondes, on se dit, mais il devrait y avoir quelque chose comme ça. Alors maintenant, la vraie question, donc, c'est pas justement est-ce que les ovnis, les gens se trompent ou mélangent tout, c'est est-ce que dans certaines de ces histoires d'ovnis, on peut rapprocher ça de ce qu'on devrait s'attendre à voir.
Ouais.
Et alors là, en fait, on rentre dans des problèmes qui sont extrêmement compliqués parce que la question qu'il faut poser au-delà de ça, c'est mais à quoi on devrait s'attendre, en gros ? Les extraterrestres, ça ressemble à quoi ?
Oui, parce qu'on n'a aucune idée de quelle manière a pu se développer une idée de vie, enfin une forme de vie ailleurs.
Et voilà, c'est ça en fait le vrai problème. C'est-à-dire que là, on se trouve, ça c'est une question qui est, pour prendre un raccourci, en gros, c'est comme si on voulait essayer de prouver l'existence de Dieu. On est face à quelque chose qui nous dépasse et on est un peu démunis de moyens. On va dire. Donc, alors bien sûr, les extraterrestres, c'est pas Dieu, c'est pas le même problème. On est dans une question scientifique, pas dans une question théologique. Mais c'est vrai que si on se dit que des civilisations ailleurs dans l'univers sont beaucoup plus anciennes que la nôtre, on est face à quelque chose qui est très difficile à appréhender. Donc, mais on voit bien qu'on n'élimine pas les ovnis avec ça. On est plutôt invité à aborder le problème différemment. Alors, là où il y a quelque chose qui, moi, m'intrigue, c'est que d'un côté, on l'a vu, il y a des scientifiques qui sont sceptiques, qui disent les ovnis, pas d'intérêt. De l'autre côté, le petit reproche, je dirais, que je ferais aux gens qui s'intéressent aux ovnis, c'est souvent de regarder le problème ovni en manquant un tout petit peu d'ambition. C'est-à-dire que tout à l'heure, je citais Aimé Michel. À mon avis, Aimé Michel a bien posé le débat. Mais la plupart des gens qui s'intéressent aux ovnis n'ont pas lu Aimé Michel ou n'en ont pas tiré toutes les conséquences. Et souvent, par exemple, la réflexion, c'est de dire, ben oui, les ovnis, c'est des machines extraterrestres qui viennent nous rendre visite et qui sont pilotés par des petits hommes. Bon, c'est sympathique, mais ça me rappelle trop la science-fiction des années 50.
Ouais.
Et je me dis que c'est un peu trop simple pour être vrai.
C'est un peu court, quoi.
Voilà. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer, c'est en gros comme, comment dire, si on se met à l'époque de Christophe Colomb, si Christophe Colomb avait imaginé notre siècle en se disant, ben, au 21e siècle, il y aura des caravelles qui circuleront dans tous les sens, et on ira explorer comme ça la marine à voile, il y en aura partout.
Ouais,
non,
ouais, ouais.
Il aurait juste oublié les satellites, les avions, les fusées et tout le reste, quoi.
Oui, ce qui était dans son esprit totalement inconcevable de
voilà.
toute façon.
C'est ça le vrai truc, c'est que il faut savoir que quand on imagine les soucoupes volantes comme des machines avec des pilotes dedans et tout,
ouais.
bon, c'est pas idiot, mais c'est très lié à une exploitation linéaire de notre histoire des sciences actuelles.
Oui, oui, ça reste dans le domaine de notre culture et de
voilà.
notre vision des choses.
C'est en gros, c'est un super Apollo.
Ouais.
Mais il y a gros à parier que notre science, notre technologie dans un million d'années sera aussi différente par rapport à nous. Que
nous le sommes par rapport à Christophe Colomb.
Voilà, qu'on est et même par rapport aux Australopithèques, on
ouais,
peut
ouais.
le dire. Donc ouais. c'est là où vraiment on se rend compte qu'on a on tombe de la science dans la métaphysique. Cette question, c'est pour ça que je trouve la question des ovnis fascinante, c'est qu'en fait on part d'une question de gens qui ont vu quelque chose dans le ciel et on se retrouve avec des questions philosophiques d'une rare richesse. C'est pour ça que c'est vraiment dommage que le débat sur les ovnis soit limité à des engueulades entre des gens qui se disent « tu caches la vérité, mais non, c'est toi, vous êtes des rationalistes, vous êtes des crédules et tout ». Parce que derrière ça, il y a un débat scientifique d'un intérêt extraordinaire. Et on le voit bien, puisque la science a posé cette question de la pluralité des mondes, donc le public répercute cette question en posant des questions scientifiques. Donc moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est pourquoi est-ce qu'on se limite autant à réduire le débat à rien, alors qu'en fait, on a une richesse de vues qui se profile derrière tout ça, qui est proprement hallucinante. Et alors là, pour le coup, moi j'aurais tendance à inviter les gens à lire de la science-fiction, parce que la science-fiction, on dit souvent, c'est de la littérature, mais c'est pas simplement la littérature, c'est un véritable laboratoire où actuellement on expérimente tout un tas d'idées sur des sujets passionnants, qui concernent notre avenir, et qui concernent notamment cette question de la pluralité du monde. Et moi je trouve que quand on voit 2001 l'Odyssée de l'espace, ou qu'on lit des romans comme Contact de Carl Sagan, qui a aussi d'ailleurs été porté à l'écran, mais on a une réflexion tout à fait intéressante et judicieuse qui concerne le débat sur les ovnis. Donc il y a vraiment un sujet extraordinairement riche et intéressant. Et c'est dommage de se priver du plaisir de poser ces questions-là.
Ouais. Pierre Lagrange, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions Presse du Châtelet, « OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez ». Est-ce que vous avez en mémoire quelques cas résiduels qui pourraient justement correspondre à... Je réussis pas à formuler la phrase. Est-ce que l'hypothèse OVNI correspond, plutôt en le prenant à l'envers, est-ce que l'hypothèse OVNI correspondra à quelques cas que vous avez eu l'occasion, l'opportunité d'étudier?
Alors c'est là où ça devient extrêmement difficile. Comme tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il nous manque les outils qui permettent d'avoir des données, on va dire, très, très fiables et tout.
Ouais.
Du coup, quand on discute les cas, il faut toujours avoir une marge de sécurité, je dirais, pour ne pas affirmer des choses dans un sens ou dans l'autre.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas qui sont accumulés depuis 1947 qui sont bizarres.
Mm-hmm.
Bon, principalement, disons, les cas qui attirent l'attention, les premiers, c'est ce qu'on appelle les rencontres du troisième type. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu, depuis très longtemps, des choses se poser et des êtres débarquer. Et c'est vrai que quand on les interprète au premier degré, c'est quoi? Donc c'est des gens qui ont vu des machines volantes avec des pilotes qui sont pas tout à fait humains. Donc on est tenté d'interpréter ça dans le sens d'une hypothèse extraterrestre au premier degré, on va dire. C'est-à-dire, il y a des machines pilotées qui se posent sur Terre.
Mm-hmm.
Un peu de l'inverse de la mission Apollo, quoi. Ils viennent chez nous.
Vous pensez à quel cas en...
Il y a un certain nombre de cas qui sont tout à fait intéressants. Je pense à deux notamment. Un qui s'est passé à Valensole en 1965, le 1er juillet.
Oui.
C'est un paysan, Maurice Mas, qui est décédé il y a quelque temps, qui observe dans son champ, à 5 heures du matin, un objet qui a une forme un peu d'œuf, qui est posé sur des pieds, et il y a deux petits hommes devant qui sont en train d'observer sa lavande. Et ils sont petits, ils font un mètre de haut, et ils ont une tête énorme. Et ils s'approchent, et il est paralysé, on va dire, par ces petits êtres. Il y en a un qui tire un tube qu'il avait accroché à la ceinture, il le dirige vers le paysan, et Maurice Mas ne peut plus bouger. Donc ça... Cette affaire-là, elle a été enquêtée par la gendarmerie, il y a des PV de gendarmerie, on a le récit du témoin. À l'époque, on a dit il a fait une confusion avec un hélicoptère. Bon, peut-être, mais si c'est ça, moi ça me pose une question extrêmement intéressante, c'est comment, à partir de l'observation d'un hélicoptère, il a pu raconter un récit qui diverge autant de ce qu'on sait être un hélicoptère.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est bizarre son truc. Donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a une énigme. Et il y a un autre témoignage qui se passe un an avant, à Socorro, dans le Nouveau-Mexique, où c'est un policier qui entend une explosion, qui se dirige dans un endroit donc un peu désert, où il a vu un truc bizarre dans le ciel,
oui.
Et là il observe au sol un objet qui a aussi une espèce de forme un peu d'œuf ou un peu allongée, qui est posé, et il y a deux petits êtres devant, alors qui ne ressemblent pas à ceux de Maurice Mas parce qu'ils sont recouverts d'une combinaison, donc ils ne voient pas leur aspect.
Mm-hmm.
Mais ils ont l'air d'être de regarder un peu ce qui se passe par terre. Et l'engin va décoller, faire beaucoup de bruit et partir dans le lointain. Alors ce monsieur a été enquêté, il a été interrogé par les enquêteurs de l'armée américaine et par des scientifiques, notamment Hynek, l'astronome que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a créé un groupe d'études des ovnis aux États-Unis et qui à l'époque travaillait pour le compte de l'US Air Force. Et personne n'a réussi à pouvoir dire qu'en gros le témoin avait... ou avait menti, ou avait halluciné, et tout. C'est un des cas les plus solides du dossier des soucoupes volantes qui existe à l'heure actuelle.
Oui.
Donc, il y a vraiment... En plus, il y avait des traces au sol, pour le coup. À Valensole aussi, il y avait des traces.
Oui.
Le problème, c'est qu'à Valensole, on n'a pas pu les analyser. À Socorro, elles ont été photographiées, on a fait le plan de ces traces et tout. Donc, il y a bien un truc qui, apparemment, s'est posé là. Donc, il y a des cas comme ça qui sont très bizarres. Mais on voit bien qu'une fois qu'on a ça, on a des témoins sincères qui ont vécu quelque chose de bizarre et tout. Après, c'est comment est-ce qu'on peut interpréter ce genre d'histoire?
Et est-ce que ces cas qui paraissent solides et bien documentés, bien enquêtés, on va dire, est-ce qu'ils peuvent être mis en parallèle avec la théorie de la pluralité des mondes?
C'est-à-dire que c'est là où le problème commence. C'est-à-dire que ce que nous montrent ces cas, c'est effectivement le modèle, je dirais, populaire. C'est-à-dire qu'il y a un engin qui est posé au sol et des petits êtres qui pilotent cet engin. Donc c'est là où il y a quelque chose de curieux, c'est-à-dire que ça nous invite à interpréter l'hypothèse extraterrestre au premier degré, à se dire on est visité par des machines qui se posent, qui brûlent les herbes aux alentours, et puis des pilotes qui sont en scaphandre ou pas, mais qui pilotent ces trucs-là.
Ça reste toujours, ce que vous leur reprochez à ces visions, c'est que ça reste toujours dans le cadre de nos connaissances.
Ah, moi je reproche rien aux visions, au contraire. Les témoins, c'est extraordinaire qu'ils racontent ça. Mais ça nous pose une difficulté en termes d'interprétation, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on doit interpréter ça? C'est-à-dire que pour essayer de réfléchir un peu plus loin, on dit souvent que les gens se trompent et que par exemple Maurice Mass, on l'a accusé d'avoir confondu avec un hélicoptère. Moi, l'autre question que je me pose, elle va dans le sens contraire. C'est-à-dire, imaginons que ces témoins aient vraiment assisté à quelque chose qui soit vraiment extraterrestre, c'est-à-dire vraiment différent, vraiment étranger. Ce qui est clair, ce qui me paraît clair, c'est que pour pouvoir décrire ce qu'ils auraient vu, ils sont obligés de puiser dans leur culture.
Exact.
Oui. Donc ils sont obligés d'aller chercher des modèles qui correspondent à ce qu'ils connaissent.
Oui. Ça correspond exactement à la description des caravelles de Cortés lorsqu'il est arrivé pour la première fois, lorsqu'il a abordé sur le territoire Inca. Ceux qui ont rapporté, les messagers de l'empereur, ont rapporté la chose suivante. Ils ont vu des collines sur l'eau avec des arbres.
Voilà.
Ils ne pouvaient pas, comme ils ne connaissaient pas les bateaux, ils n'en avaient jamais vu, ils ne pouvaient pas décrire un bateau autrement qu'en disant ça. Donc forcément loin de la réalité.
C'est ça. Et de la même façon que quand ils ont vu les premiers cavaliers de Cortés arriver, ils ont vu des centaures.
Voilà, c'est ça.
Ils décrivent ces espèces d'êtres hybrides qui sont à la fois hommes et cheval, mais qui arrivent à se séparer à certains moments.
Oui.
Et donc, effectivement, le parallèle est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Bertrand Meus, qui est un philosophe qui s'intéresse aux soucoupes volantes et qui a écrit plusieurs livres remarquables sur ce sujet, s'était intéressé justement à ces récits de la conquête espagnole de l'Amérique, parce que ça offre des parallèles tout à fait intéressants. Effectivement, des gens qui n'ont pas certains concepts, comment décrire, en fonction de sa propre culture, ce qu'on a vu. Et je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de ça pour essayer de comprendre. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des certitudes, on ne peut pas avoir de certitudes sur l'histoire des ovnis. Mais par contre, il s'agit de ne pas se priver de la richesse que produit toute cette histoire en termes de réflexion. Et de se dire qu'effectivement, Maurice Mass en France ou Zamora, le policier à Socorro, ils ont vu quelque chose. Ils ont essayé de le rapporter de bonne foi, mais ils ont été obligés de puiser dans leur propre culture pour le décrire. Et dès lors, il est clair que de la même façon que les Indiens n'ont pas eu affaire à des centaures ou à des collines avec des arbres. De la même façon, il est possible que ces témoins aient vu complètement autre chose. Mais par contre, ils ont été obligés de le décrire avec des mots humains, on va dire. Le problème, c'est qu'on n'a pas le lexique extraterrestre pour pouvoir décrire ces choses-là. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, encore une fois, il faut être prudent. Il ne s'agit pas d'avoir de certitude. Mais je trouve que, d'un point de vue philosophique et scientifique, ça pose une question extrêmement intéressante, c'est que si on prend la théorie de l'idée de Fermi, il y a dans le cosmos des civilisations beaucoup plus anciennes que la nôtre. Ça pose un vrai problème, c'est que tôt ou tard, on sera confronté à ces civilisations. Donc, il n'est jamais trop tôt de commencer à réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on va être obligé d'inventer comme concept pour pouvoir appréhender ce genre de choses. Et là, je trouve qu'il y a un sujet de réflexion qui, ma foi, est tout à fait sérieux. Et je ne vois pas pourquoi on réduirait les gens au ridicule ou au silence, alors que, ma foi, eux, ils sont de bonne foi, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils apportent des informations tout à fait intéressantes sur quelque chose qui peut engager notre avenir.
Et d'où l'utilité de ce logiciel qui permettrait aux témoins qui ont vu quelque chose de particulièrement étonnant et qui se situe complètement en dehors de leurs connaissances culturelles, là, on pourra avoir des rapports d'observation beaucoup plus précis.
Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, on va dire pour faire simple, ce genre d'outils, ça va nous permettre, parce que dans le dossier des ovnis, il y a beaucoup de choses. Et dans le dossier des ovnis, je suis à peu près persuadé qu'il y a des phénomènes naturels inconnus. Donc déjà, ça serait extrêmement intéressant de pouvoir, grâce à ce genre d'outils, isoler et créer des catégories. Et notamment isoler, on sait que dans certaines régions, à Esdalen, en Norvège ou ailleurs, on observe des lumières, souvent des
petits bizarres,
qui semblent être très probablement appartenir à des catégories de phénomènes naturels inconnus. Donc là, la science tout à fait classique, a des progrès à faire. Et donc, ça vaudrait la peine d'étudier ça. Et ce genre d'outil est déjà utile dans ce cas-là. Mais c'est vrai que, de toute façon, il est clair qu'on ne peut pas continuer à débattre des ovnis en s'engueulant. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire de la science au XXIe siècle. Et donc je crois qu'on a tout intérêt à prendre les choses avec un peu d'humilité, à se dire les gens ont vraiment, ils ont vu quelque chose, ça, on a tout intérêt à écouter leur description et à essayer d'en tirer un savoir. Et je crois que ça fait partie d'ailleurs de cette espèce de courant général qui consiste à rapprocher la science du public. C'est pas très utile de vouloir creuser un fossé en disant d'un côté il y a les scientifiques qui sont savants et de l'autre il y a le public qui est ignorant. Je crois qu'on appartient tous à la même société et on a tous intérêt à nous comprendre et à nous entendre plutôt qu'à s'ignorer les uns les autres. Et le sujet des ovnis fait partie de ces questions qui créent des discordes alors qu'on aurait toutes les raisons de se rapprocher et de discuter. Donc je crois que c'est utile de faire un effort en ce sens-là. Parce qu'on le voit, c'est pas simplement la question des ovnis qui est en jeu, c'est plus généralement la question du rapport du public aux sciences et de l'avenir que nous nous construisons collectivement. Donc voilà. Alors après, ça engage des questions qui sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes, mais on va quand même pas se plaindre si, à partir d'un truc qui est un fait divers au départ en 1947, on débouche sur des questions sur la pluralité des mondes. Je vois pas pourquoi, au nom de quoi, on devrait se dire c'est un grand malheur, alors qu'en fait c'est une question tout à fait passionnante qui est posée.
Ouais. Pierre Lagrange, une pause et nous allons conclure cet entretien très enrichissant et passionnant. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que s'ils veulent envoyer un SMS 71-200, vous tapez Sud sur votre portable, une pause, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71-200 ou encore vous pouvez continuer à nous appeler au 0826-300-300. Toujours dans le cadre de rapprocher la science du public, Pierre Massias va venir me rejoindre tout à l'heure pour parler d'une opération porte ouverte à la Cité de l'Espace juste après cette pause.
Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Benedi.
71-200, vos SMS, Pierre Lagrange, mon invité, est l'auteur d'un livre intitulé « OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez » aux éditions Presse du Châtelet. Pierre Lagrange, un SMS vient d'arriver avec une question tout à fait pertinente. Comment expliquez-vous qu'avant l'apparition de l'aviation, nous n'avons aucun témoignage d'OVNI alors que d'autres vies existeraient depuis des millions d'années ?
Alors, c'est pas tout à fait exact, on a des témoignages d'OVNI avant l'aviation. C'est-à-dire que depuis l'aube des temps, on a des témoignages de choses dans le ciel. La vraie difficulté, c'est que il faut pas aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit on a vu des ovnis de tout le temps, soit on n'en a pas vu. On observe depuis l'aube des temps des choses dans le ciel. Par exemple, au XVIe, XVIIe siècle, on a des représentations de phénomènes célestes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la science, encore une fois, l'outil qui nous permet d'étudier ces choses-là, existe depuis très peu de temps, depuis 400 ans. Et au début, c'était la science, il y avait très peu de scientifiques, Copernic, Galilée, tous ces noms qui sont tellement connus de nous, en Europe, vous vous seriez promené au début du XVIIe, vous auriez prononcé le nom de Copernic,
oui,
la plupart des gens ne savaient pas qui c'était.
Oui, tout à fait.
En fait, pendant longtemps, on a regardé le ciel dans un cadre religieux, et pas dans un cadre scientifique. Ce qui fait que la plupart de ces témoignages, entre guillemets, qui se sont accumulés au cours des siècles, ils sont très difficiles à analyser parce que ils sont apparus dans un contexte très différent. Et ça n'est que depuis quelques décennies, et depuis 2-3 siècles, qu'on a des comptes rendus d'observation de phénomènes célestes qui correspondent aux exigences des témoignages scientifiques. Donc c'est pour ça que des ovnis au sens strict, des phénomènes célestes bizarres, on en voit depuis toujours. Par contre, des choses qu'on va analyser scientifiquement dans le cadre d'un débat comme celui sur les ovnis, ça n'est que très récent, parce qu'avant, les outils n'existaient pas.
Pierre Massias vient de nous rejoindre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Louis. Bonsoir Pierre.
Oui, vous avez tous les deux le même prénom, oui c'est vrai. Alors, Pierre Massias, juste avant de conclure avec Pierre Lagrange, une petite parenthèse concernant la Cité de l'Espace.
Oui, une petite parenthèse, parce que, pour prolonger un petit peu cette notion d'espace, la Cité de l'Espace de Toulouse organise ce week-end un week-end portes ouvertes pour son 10e anniversaire. Donc c'est l'occasion portes ouvertes, donc entrée gratuite.
Ouais. Ah oui, c'est
bien.
Un détail important.
Donc c'est l'occasion de profiter, de découvrir, de redécouvrir les nouvelles activités proposées par la Cité, comme par exemple des mini-ateliers spatiaux pour fabriquer son satellite ou pour fabriquer une image spatiale, ou un forum métier pour savoir comment l'on devient astronome, astronaute, ingénieur spatial, enfin les métiers de l'astronomie, de l'astronautique. Et puis des animations particulières, peut-être juste après l'émission pour les gens qui sont tournés vers la cité de l'espace, ouais, pour en regarder le ciel. Il y aura un magnifique feu d'artifice. Et demain, un tirage au sort du gagnant d'un jeu qui a été organisé depuis plusieurs mois par la cité de l'espace. Donc un tirage au sort qui sera fait en présence de Claudie Aigneret.
Ouais. Il va gagner un voyage sur la Lune.
Presque. Il y a des voyages très très amusants, très enrichissants, ouais, à gagner.
Bien. Pierre Lagrange, ce serait une bonne idée si le GIPAN avait son stand à la Cité de l'Espace.
C'est peut-être le cas, je sais pas trop, mais je pense que,
enfin, pas ma connaissance, hein.
Depuis des mois, on voit que Jacques Pathenet se dépense beaucoup à communiquer avec le public, et il le fait très bien. Donc je pense que chaque fois qu'il a l'occasion, justement, il le fait, il apparaît dans les manifestations publiques de ce genre. Mmh. Et par exemple, je sais que dans les années 70, vous le rappeliez, au Bourget, justement, le GEPAN avait eu un stand.
Oui,
donc
oui.
C'est pas en soi, c'est pas inconcevable, ce genre de choses. Oui.
Mmh. Pierre Lagrange, après la publication de ce livre, après l'émission que l'on vient de partager ensemble, étrangeté sur Sud Radio, le vœu que vous feriez pour conclure cette émission, pour que finalement les choses essayent d'avancer un peu dans le bon sens.
Oula, ça c'est un vœu, mais c'est vraiment un vœu, parce que malheureusement l'histoire des ovnis nous montre que c'est difficile. Je pense que le vrai problème, c'est d'arriver à apaiser un peu les débats. Alors c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Hein.
Mm-hmm.
C'est vrai que c'est une question que moi je trouve intéressante, passionnante déjà, mais intéressante après, parce que elle pose tout un tas de questions scientifiques. C'est une question qui est également passionnante parce qu'elle permet de rapprocher la science et le public. Et pendant longtemps, on a cru que cette question écartait la science du public.
Ouais.
Et donc c'était un sujet irrationnel et tout. Moi, je suis pas du tout d'accord. Si les gens s'intéressent aux soucoupes volantes, c'est parce que d'abord, ils s'intéressent à la connaissance et à la science. Donc il faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut au contraire affronter le sujet, l'affronter dans toutes ses ramifications, y compris la question de la pluralité des mondes, parce que c'est comme ça qu'on maintient l'intérêt et je dirais de bonnes relations entre science et public. C'est vraiment un enjeu intéressant.
Les médias ont leur part de responsabilité dans ce genre d'entretien d'opposition.
Oui et non, parce que c'est vrai qu'en 47, quand le sujet a été lancé, on est allé voir les militaires et les scientifiques et on s'est contenté des réponses qu'ils donnaient. Et c'est très rare de voir des enquêtes très poussées, très sérieuses sur ces sujets. Tout simplement parce que l'actualité va à une telle vitesse que il faut du temps, de l'argent pour faire une enquête. Donc souvent, on s'est contenté de demi-réponses sur ces sujets, et c'est pour ça qu'on a un climat un peu pourri, on va dire, de discussion qui est entretenu depuis 60 ans. Mmh. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que je crois qu'une opportunité si riche de discuter de science est ratée, parce que on pose de travers les questions et qu'on se lance dans des diagnostics un peu rapides au lieu de marquer une pause et d'écouter un peu ce que les gens ont à dire. Mmh. Donc il y a un bel enjeu. C'est un sujet, encore une fois, je vois pas pourquoi on a peur, parce que c'est un sujet au contraire qui est passionnant, qui découle de questions philosophiques qui remontent aux Grecs. Donc la pluralité des mondes, c'est pas nouveau. Et franchement, s'il y a un vœu, c'est justement que l'information soit un peu mieux faite sur ces questions et qu'on en discute ouvertement, qu'on arrête d'avoir peur. Moi, combien de fois j'ai vu des scientifiques qui se disent, oui, mais si on commence à parler de ça, on va avoir des problèmes avec un tel, on va s'engager dans des polémiques. Les gens ont peur de leur adversaire potentiel.
Mm-hmm.
Non, tout le monde est curieux dans cette histoire. Et c'est, je crois, la peur qui crée ces espèces de débats un peu sur de mauvaises bases, alors qu'en fait, on a toutes les raisons de s'entendre et de s'intéresser à ces questions qu'on a en commun, que l'on partage tous.
Merci beaucoup, Pierre Lagrange.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à cette invitation. À très bientôt pour un autre ouvrage, parce que vous êtes très prolixe dans ce domaine.
Il y a du pain sur la planche.
À très bientôt, Pierre Lagrange.
À très bientôt.
Au revoir. Avant de se quitter, je vous rappelle les deux titres des ouvrages qui ont servi, qui m'ont servi à construire cette émission. Première partie de l'émission était consacrée, je vous le dis, si vous avez pris l'émission en cours, aux apparitions au Portugal, aux apparitions mariales, donc de la Vierge Marie au Portugal, à Fatima précisément, puisque cette année on fête les 90 ans des apparitions à Fatima. Donc le titre du livre, c'est Apparition à Fatima, aux éditions Presse du Châtelet, son auteur Daniel Costel, avec inséré dans le livre un DVD, le film de Daniel Costel qu'il a réalisé sur le lieu historique justement de Fatima, une reconstitution tout à fait fidèle à ce qui s'est passé, un film de 93 minutes à peu près. Donc ça c'est le premier ouvrage. Deuxième ouvrage que je vous recommande, c'est celui de Pierre Lagrange, donc avec qui j'ai fait la deuxième partie de cette émission sur le dossier OVNI. Le titre de ce livre, OVNI, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, toujours aux éditions Presse du Châtelet. Pour conclure, pour nous contacter, c'est le 0826 300 300. Vous nous laissez un message sur ma boîte vocale, celle des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous contacter par mail. Vous écrivez à étrange, au singulier, étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr, et on se retrouvera, bien entendu, à partir de samedi prochain, nouveaux horaires, notez bien, samedi, 20h, 23h, et là, nous parlerons du chamanisme. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, et Pierre Mathias qui continue toujours, indéfectiblement, à m'aider à la construire. À la semaine prochaine.